Le second mariage de Margaret Fell fut avec George Fox, 11 ans après la mort de son premier mari, le juge Fell. Ce mariage eut lieu en obéissance au commandement direct et explicite du Seigneur Jésus adressé à George Fox. Le texte en bleu clair ou en bleu clair gras peut être cliqué pour obtenir un appui dans l'écriture ou des détails dans les écrits. Lorsqu'on clique vers la Bible en ligne, on peut changer et mettre à jour afin de voir la version ou la langue biblique que l'on préfère. Margaret Fell écrit au nouveau convaincu de demeurer dans la croix jusqu'à ce qu'ils constatent leur mort, et leur relèvement comme né de nouveau peut être la plus grande erreur du christianisme aujourd'hui est-elle de présumer. Présumer qu'on est né de nouveau, présumer qu'on est sauvé, le tout sur la base d'une lecture sélective des Écritures, comme les pharisiens cherchant la vie éternelle dans les Écritures. Présumer que le toucher de Dieu, donné pour nous éveiller à sa réalité et n'étant encore qu'un appel, sans que nous soyons encore choisis, présumer que cela soit le baptême du Saint-Esprit ou la preuve d'être né de nouveau, ou pire que tout, l'interpréter à tort comme une preuve qu'on a été fait ministre ou désigné prophète, et se croire dès lors obligé de sortir prêcher la lettre sans l'Esprit, ce qui aboutit à un retardement spirituel et à la mort de l'âme, une telle présomption est catastrophique pour celui qui présume. Ici, Margaret Fell souligne que de telles conditions de salut et de nouvelle naissance doivent être attestées, c'est-à-dire vérifiées, observées, entendues, ressenties, vécues, plutôt qu'imaginées, présumées, supposées, revendiquées, crues, lues. Elle supplie ceux qui viennent d'être convaincus de la vérité de ne pas se tromper eux-mêmes en vivant dans une prétention et une forme. Mais elle les avertit de demeurer dans la croix, d'observer leur cœur être déchiré et leurs secrets exposés, d'observer leur mort et, si vous êtes nettoyés, si vous êtes purifiés, si vous êtes lavés, ce dont le résultat est d'être libre du péché, de goûter l'union avec Dieu dans son royaume avec les fruits de la sainteté. Une épître à des amis convaincus mais pas encore crucifiés. En 1656, chers amis, frères et sœurs, dans la lumière éternelle par laquelle nous sommes rassemblés, qui est notre enseignant et notre guide, laquelle lumière vient de notre Seigneur Jésus-Christ, le capitaine de notre salut en qui est la vie, et cette vie est la lumière de tous les hommes, lui qui a donné sa vie pour ses brebis, et qui donne à ses brebis la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Votre justice vient de moi, dit le Seigneur, et c'est l'héritage des saints. C'est à cela que vous êtes rendus participants, vous qui marchez dans la lumière et demeurez dans la lumière, vous aurez la lumière de la vie et viendrez à connaître le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ qui l'a envoyé, lui qui est venu comme une lumière dans le monde. Celui qui croit en lui ne marchera pas dans les ténèbres, ne périra pas, mais aura la vie éternelle. Et ceci est l'amour gratuit du Père, envoyé dans le monde son Fils unique engendré, qui est haï et rejeté des hommes, mais choisi de Dieu et précieux, et qui est devenu la pierre d'angle, gloire éternelle au Dieu vivant. C'est sur lui que nous sommes bâtis, en lui nous sommes enracinés et fondés. Il est notre fondement et notre racine, nous sommes sa descendance, et c'est sur lui que nous tenons ferme, inébranlable. C'est la pierre angulaire que tous les bâtisseurs refusent et rejettent. Mais sur ce roc est bâtie toute l'Église, faite de pierres vivantes, élues et précieuses, le temple spirituel, dont l'auteur et le bâtisseur est Dieu. Et maintenant, puisque nous avons un souverain sacrificateur sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans une pleine assurance de foi, ayant nos cœurs aspergés pour être purifiés d'une mauvaise conscience et nos corps lavés d'une eau pure, elle parle d'une eau spirituelle d'en haut qui doit être attestée, et non du baptême d'eau terrestre, de même que nous devons attester le feu du baptême qui brûle toute impureté et nous laisse purs. C'est pourquoi revenez au berger de vos âmes et au prêtre immuable, établi par serment pour toujours selon l'ordre de Melchisédek, lui qui est garant d'une meilleure alliance, qui n'a pas besoin d'offrir chaque jour un sacrifice, mais a offert un seul sacrifice, et pour toujours s'est assis à la droite de Dieu, attendant désormais jusqu'à ce que ses ennemis soient mis comme marchepied sous ses pieds. Car par son offrande, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés, et de cela le Saint-Esprit nous rend témoignage, dans l'accomplissement de la promesse éternelle du Seigneur Dieu, qui a dit « Je mettrai mes lois dans leur cœur, et je les écrirai dans leurs pensées ». Maintenant, chers frères, rendez-en témoignage, témoignage au sens d'expérience, d'observer et de sentir, non au sens d'aller le dire aux autres, et vous pouvez sceller la vérité et la fidélité du Seigneur Dieu, vous tous qui demeurez dans la lumière et vous éloignez de l'iniquité, vous qui invoquez ce nom, meilleur que tous les autres noms, devant lequel tout genou fléchira et toute langue confessera. Et maintenant, puisque vous êtes rendus participants d'un principe vivant, pur, éternel, immortel, qui vient du Dieu vivant, par lequel vous pouvez entrer dans le lieu très saint par le sang de Jésus, par cette voie nouvelle et vivante qu'il a consacrée pour nous à travers le voile, c'est-à-dire sa chair, retenez donc fermement la confession de votre foi sans fléchir, car fidèle est celui qui a promis. Avancez dans le chemin étroit et resserré qui mène à la vie, afin d'entrer par la porte étroite que peu trouvent, oh, dans la lumière éternelle qui est une en tout, qui conduit au Père des Lumières, et dans la mesure de lumière reçue du Père, source de lumière et de vie que tous attendent et où tous demeurent, et à la vie relevée par la parole immortelle de vie, joignez vos pensées, et passez de la mort à la vie, afin de venir à connaître et à tester le véritable amour pour les frères, là où est l'unité par laquelle vous saurez tous que vous êtes de vrais disciples, en ce que vous vous aimez les uns les autres, et ainsi vous accomplissez toute la loi et gardez le commandement. Ainsi donc, frères bien-aimés, considérez à quoi vous êtes appelés et à quoi vous êtes rendus participants. Une sacrificature vivante, pure et sainte, vous êtes un peuple particulier, et vous êtes de la nation sainte et de la semence royale. Or, par la lumière, qui est éternelle, qui sonde, éprouve, examine, pèse et rend toutes choses manifestes, pour montrer de quelle nature elles sont, laissez cette lumière vous sonder et vous éprouver, pour voir comment vous grandissez dans la naissance éternelle et immortelle, et ne trompez pas vos âmes. Car si vous ne naissez de nouveau, d'eau céleste, non le baptême d'eau terrestre et de l'esprit, vous ne pouvez entrer. Voyez maintenant si vous pouvez lire cela dans la lumière, et si vous connaissez, voyez et attestez cela dans votre propre cas, oui ou non, et voyez si vous n'êtes pas comme Nicodème, qui disait « Comment ces choses peuvent-elles être ?» Et si vous n'êtes pas ignorant de cela, ainsi donc que tous en viennent au témoignage de Dieu, et qu'ils traitent avec franchise avec leurs propres âmes, et que le juge qui se tient à la porte prononce la sentence sur vous. Que le temps passé suffise, vous avez caché le talent dans la terre, que vous avez reçu du Seigneur pour le bien de tous. Et que la terre rende ses morts, et que la mer rende ses morts, et que l'enfer rende ses morts, et que tous viennent en jugement. Que la mort et l'enfer soient jetés dans l'étang, et livrez librement ce qui est pour l'épée à l'épée, et ce qui est pour le feu au feu, afin que ceux qui sont morts dans le péché puissent se lever. Car quel avantage y a-t-il pour vous apprendre la profession et la forme de la vérité vivante? Car si les morts ne ressuscitent pas, elles parlent de notre relèvement hors de la mort maintenant, non après l'ensevelissement physique vous êtes encore dans vos péchés, et votre foi est vaine. Voyez donc ce que vous faites. Car ce n'est pas celui qui parle qui est sauvé, mais celui qui fait la volonté de mon Père, et beaucoup seront appelés et peu seront choisis. Voyez maintenant, avec la lumière éternelle, que vous n'êtes pas seulement du grand nombre des appelés, mais du petit nombre des choisis. Employez toute diligence non seulement à rendre ferme votre appel, mais aussi votre élection. Amis, votre jour d'appel est venu, vous avez été appelés hors du monde et séparés du monde par l'appel du Dieu vivant. La lumière appelle hors de Sodome et d'Égypte, là où sont les multitudes. Ne vous trompez donc pas, vous êtes quelques-uns des nombreux appelés, et vous êtes rendus participants de ce qui appelle continuellement, cette voix par derrière qui crie « Voici le chemin, marchez-y, pourquoi mourriez-vous » Considérez maintenant comment vous répondez à cet appel saint, comment vous y obéissez, comment vous vous y soumettez, et comment vous êtes enseignés et guidés par la mesure de l'Esprit de Dieu. Car tous les enfants du Seigneur sont enseignés par le Seigneur, et c'est dans la justice qu'ils sont affermis. Cherchez maintenant, avec la lumière éternelle, si vous êtes affermis dans la justice et la pureté. Si vous ne l'êtes pas, prêtez attention aux enseignements du Seigneur, car celui qui marche dans la lumière, comme lui est dans la lumière, le sang de Jésus purifie de tout péché. Examinez donc, êtes-vous purifié, êtes-vous épuré, êtes-vous lavé, car si vous marchez dans la lumière, alors vous attestez, observez et expérimentez la purification et le lavage. Et prenez garde de trahir en vous le juste et l'innocent, par une forme et une profession de la vérité sans la vie, et de trahir ainsi vos propres âmes, je vous avertis et vous en charge, comme vous en répondrez devant le Seigneur. Mais que tous se tournent vers le principe pur et éternel du Seigneur Dieu, et gardez vos pensées sur cela qui vous est donné pour racheter et délivrer vos âmes de la captivité et de la servitude du péché et de la corruption. Répondez avec diligence à ce qui est de Dieu, afin que vos âmes vivent, et que vous puissiez voir votre Sauveur, qui sauve son peuple de ses péchés, et ainsi attester le salut de vos âmes. Vous êtes rendus participants de la grâce gratuite de Dieu, qui apporte le salut, qu'elle soit donc votre enseignante et votre guide. Prenez garde de transformer cette grâce en licence, alors qu'elle peut sauver vos âmes. Mais recevez avec douceur la parole implantée, afin d'en attester le lait, et comme des nouveau-nés, désirez-le pour y croître. Nous vous annonçons la parole qui est proche dans le cœur, qui est la parole de la foi que nous prêchons. Cette parole était au commencement, par laquelle la terre et les cieux ont été faits. Nous l'avons entendue, nous l'avons vue, nos mains l'ont touchée. C'est à la mesure de cela en vous que je suis rendu manifeste. Et ma joie et ma vie, c'est que vous preniez garde à vos propres mesures reçues, et que vous soyez vrais et fidèles à ce qui peut sauver vos âmes, afin que vous veniez à attester cette rédemption éternelle et pure, et l'unité de la foi, et qu'ainsi vous vous unissiez au corps qui tient la tête, de laquelle la vertu vivante est reçue. Ainsi vous pourrez grandir comme des plantes vivantes dans le jardin de Dieu, qu'il cultive maintenant, arrose et taille, afin qu'un fruit lui soit apporté, à lui qui est le Seigneur de la vigne et le vigneron, qui émonde toute plante qui porte du fruit afin qu'elle en porte davantage. Toute branche qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Voyez maintenant, avec la lumière éternelle, si vous portez du fruit pour Dieu. Car tout arbre se connaît à son fruit, et toute branche que le Seigneur plante porte du fruit, pas seulement des feuilles, mais du fruit. Cherchez donc si vous portez du fruit ou des feuilles. Car l'arbre qui est dans le jardin et ne produit rien que des feuilles doit être abattu. Maintenant, amis, agissez avec franchise envers vous-même, et laissez la lumière éternelle vous sonder et vous éprouver pour le bien de vos âmes, car elle agira avec franchise avec vous. Elle vous ouvrira, vous mettra à nu et rendra manifeste tout ce qui demeure en vous. La subtilité secrète de l'ennemi de vos âmes, cet investigateur et éprouveur éternel la rendra manifeste. Que tous donc viennent à cela, et par cela soient sondés, jugés, conduits et guidés, car c'est là que vous devez tenir ou tomber. Et si vous vous détournez de cela, c'est un prompt témoignage contre l'adultère et le magicien, et vous ne pouvez y échapper. En cela j'ai déchargé ma conscience, et c'est pour le bien de vos âmes que j'ai écrit ceci, moi qui désire que vous soyez tous là où je suis, afin que nous soyons tous un. Que le Seigneur Dieu de vie et de puissance vous garde tous dans sa crainte, afin que vous puissiez servir et honorer le Seigneur Dieu, que vos cœurs soient gardés purs, et que vous veniez à connaître les secrets du Seigneur, que nul ne connaîtra jamais, si ce n'est ceux qui le craignent, et cela, vous l'attesterez éternellement. C'est pourquoi je dis encore, craignez le Seigneur Dieu, afin de venir à apprendre la sagesse pure, car le Seigneur Dieu est redoutable et terrible, et le jour de la vengeance de notre Dieu est venu, où il rend à chacun selon ses œuvres. Le rétrograde, le révolté, les désobéissants, les insouciants, les paresseux, et ceux dont l'esprit se laisse aller et ne veut pas demeurer dans la croix du Christ, tous ceux-là recevront selon leurs œuvres. Ainsi donc, chers amis, demeurez dans la croix et gardez vos pensées sur ce qui est pur, afin de venir à attester l'inimitié mise à mort, et l'acte des ordonnances effacé, cloué à la croix, et vous crucifiez au monde et le monde à vous. Considérez-vous les uns les autres, et stimulez-vous à l'amour et aux bonnes œuvres, sans abandonner vos assemblées, mais en vous exhortant les uns les autres, et d'autant plus que vous voyez le jour approcher. Demeurez dans l'amour et l'unité, dans la lumière pure et éternelle, là est votre communion, là est votre purification et votre lavage. Voici le mystère pour tous les désobéissants. Que le Dieu éternel, de lumière éternelle, et de vie et de puissance éternelle, vous garde tous ici fidèles à votre propre mesure, afin que vous puissiez attester la résurrection et la vie, et vous nourrir du pain vivant, dont quiconque mange ne mourra jamais. Ainsi Dieu Tout-Puissant soit avec vous, et vous conserve tous fidèles en Christ Jésus. De votre chère sœur dans l'amour immuable du Christ, qui désire le bien de toutes vos âmes, Margaret Fell 1656, mise à jour d'après son livre, à brief collection of remarquables passages, Londres 1710 pp. 1614. Margaret Fox écrit sur la dérive des Quakers vers une forme vestimentaire, quelques courtes années après la mort de George Fox. Ci-dessous se trouve la lettre de Margaret Fox critiquant les Quakers qui conservaient la mode des années précédentes, il y a seulement 10 ans, comme marque de leur cacrisme. Il est facile de comprendre comment cela s'est produit. Les Quakers ne suivaient pas les changements de mode, conservant leurs vieux vêtements jusqu'à usure. Ainsi, la majorité des Quakers s'habillaient selon la mode des années passées. Cela devint la norme vestimentaire de facto, que l'on conseillait à tort aux nouveaux membres d'imiter. Au lieu de cela, ils auraient simplement dû conserver les vêtements qu'ils possédaient, tant qu'ils étaient sans élégance et sans garniture superflue, et lorsque ceux-ci étaient usés, acheter ce qui était alors couramment disponible sur le marché. Mais au lieu de cela, ils s'habillaient selon la mode des années précédentes, croyant à tort qu'ils ne suivaient pas la mode. La création d'une mode propre à leur religion était exactement ce contre quoi Jésus s'est écrié lorsqu'il a dit « Gardez-vous des scribes, qui aiment à se promener en longue robe, et aiment les salutations sur les places publiques, ceux-là recevront une condamnation plus grande. » Luc 20, 46-47 « Mais toutes leurs œuvres, ils les font pour être vus des hommes. Ils élargissent leurs phylactères et allongent les franges de leurs vêtements. » Matt 23, 5 « Margaret dénonça cette pratique consistant à s'habiller selon la mode d'une époque antérieure comme une chute dans une forme et les avertit de rester hors des formes. Car suivre une forme, c'est chercher à être justifié par la loi plutôt que par la foi et la grâce, et vous ne réussirez jamais sous la loi, car en observant une forme, vous vous obligez à accomplir toute la loi comme justification. Une forme n'est qu'une autre facette de la loi du péché et de la mort. Lisez Galates si vous ne comprenez pas pleinement la conséquence de tomber sous une forme de cette loi extérieure. Nous observons toujours le cœur moral de la loi, et la loi intérieure telle que le Seigneur l'écrit dans nos cœurs, avec des commandements directs qui, si nous y obéissons, sont écrits dans notre cœur. Voir ci-dessous, l'autre lettre de Margaret sur l'obéissance à la loi requise. Épître de Margaret Fox aux amis, depuis Swarthmore Hall, 4 mois, 1698. La liberté de l'esprit face à l'uniformité extérieure. Chers amis, frères et sœurs, Dieu le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ béni est un Dieu universel de miséricorde et d'amour pour tous les peuples. Et dans cet amour béni, il nous a visités en un temps favorable et en un jour de salut. Et celui qui, de bonne heure, nous a porté la bonne nouvelle de l'évangile de paix, à savoir George Fox, a demeuré corporellement parmi la plantation de Dieu, de ci, de là, pendant 40 ans, et nous avons reçu de lui certaines directions et instructions sur de nombreux sujets et occasions importants. Il nous a laissé divers écrits et témoignages à mettre en pratique selon l'évangile qu'il a prêché parmi nous, et nous avons vécu, jusqu'à ce jour, sous l'enseignement de ce bienheureux Esprit éternel du Dieu éternel, vers lequel il nous a dirigés. Maintenant, il est bon pour nous tous de continuer et d'avancer main dans la main dans l'unité et la communion de cet Esprit éternel, dans l'humilité et la modestie d'esprit, chacun estimant les autres supérieurs à lui-même, et cela est agréable à Dieu. Éveillons tous à ne toucher à rien qui ressemble aux cérémonies des Juifs, car cela déplaisait au Christ, puisqu'il est venu rendre témoignage contre elles, et à témoigner contre leurs pratiques extérieures. Gardez-vous des scribes, qui aiment à se promener en longues robes, et aiment les salutations sur les places publiques, cela recevront une condamnation plus grande. Luc 20, 46-47. Ainsi pouvons-nous voir combien ils goûtaient peu leurs cérémonies extérieures. Tenons-nous donc à la règle et à la conduite de l'Esprit éternel, que Dieu nous a donné pour être notre enseignant. Que cela fasse mettre et ôter ce qui convient est approprié et est utile à l'état et à la condition de chacun. Prenons garde de limiter cela, aucune de ces pratiques n'est sûre pour nous. Car nous sommes sous la conduite, la direction et l'enseignement de l'Évangile, qui est un esprit libre, qui conduit à l'unité, à la modestie d'esprit des saints et des serviteurs du Christ, désirant être affermis dans l'esprit libre, sans être liés ni limités. Les cérémonies légales sont bien loin de la liberté de l'Évangile. Gardons-nous d'être coupables, ou d'avoir part à ordonner ou tramer ce qui est contraire à la liberté de l'Évangile, car l'apôtre ne voulait pas dominer sur leur foi à Corinthe, mais être des aides à leur foi. C'est une chose dangereuse de mener de jeunes amis à trop observer des choses extérieures, ce qui peut se faire facilement, car ils peuvent vite prendre une tenue extérieure pour être tous semblables extérieurement, mais cela ne fera pas de des chrétiens, c'est l'Esprit qui donne la vie, je répugnerai à avoir part à ces choses. Que le Seigneur nous préserve, afin que nous ne fassions aucun tort à l'œuvre de Dieu, mais qu'il fasse lui-même l'œuvre dont il est l'auteur. Nous avons vécu tranquillement et paisiblement jusqu'ici, et ce n'est pas servir Dieu que de provoquer des brèches. Margaret Fox, Swarthmore Hall, 4 mois, 1698, mise à jour d'après son livre, à brièves collections remarquables passages, Londres, 1710 pp. 534-35. Extrait de Valiant for the Truth, écrit en 1880 par Ruth S. Murray, une Quaker. Il demeure vrai que les chrétiens qui entrent le plus profondément dans la nature spirituelle de la dispensation de l'Évangile constateront qu'elle les conduit à la simplicité quant à leur apparence extérieure. La vie nouvelle cachée avec Christ en Dieu doit différer de l'ancienne vie d'indulgence de soi, et beaucoup de choses tomberont comme les pétales de la fleur lorsque le fruit mûrit. Mais de même que la création extérieure diffère, les tempéraments particuliers diffèrent aussi, et il y aura de la diversité dans la maison de Dieu, une grande diversité mais une grande unité, lorsque l'amour de Dieu et le désir de le servir prédominent, et que toutes choses sont faites pour sa gloire. Du vivant de George Fox, rien n'indiquait la moindre disposition à imposer parmi les amis un style vestimentaire uniforme. Ils étaient rassemblés de toutes les classes de la société, de l'armée, de la marine et de l'église, des milieux commerciaux et professionnels, de la ferme et de l'atelier, et de toute profession religieuse en Grande-Bretagne. Ils comptaient des représentants de tous rangs, les riches et les pauvres, les grands et les petits, les savants et les ignorants, cavaliers et têtes rondes, anglicans et dicides, et ils s'habillaient aussi différemment qu'ils l'auraient naturellement fait dans de telles circonstances. Avant qu'une autre génération ne s'éteigne, toutefois, cette tendance naturelle de toutes les institutions humaines à graviter continuellement vers la terre, à moins d'être sans cesse ravivée et élevée par la même puissance toute-puissante qui leur donne d'abord la vie, commença à se manifester dans l'organisation de la Société des Amis. William Penn, après être devenu Quaker, continua de s'habiller comme un cavalier. Toutefois, il retira de ses vêtements les bijoux superflus, rubans et autres ornements. Interrogé par le roi Jacques, son ami et soutien, sur la différence entre leurs religions, Penn aurait répondu « Ton chapeau a des rubans, le mien n'en a pas ». Plein, dans son contexte originel, signifiait simple, dépourvu d'ornementation, non élégant, mais sans restriction de couleur, sans restriction d'uniformité, libre d'accommoder les préférences individuelles et certainement pas des vêtements d'un style d'il y a des années ou des siècles. Porter des vêtements d'un style d'un autre temps revient à suivre une mode particulière, exactement ce à quoi les Quakers primitifs s'opposaient. Leur idéal originel a été tordu au point de faire précisément l'inverse, au lieu d'ignorer la mode, et aussi sain que puisse paraître le port de tels vêtements, c'est une grave erreur. Si cela avait eu de la valeur, Fox et ses disciples auraient porté des robes copiées de l'époque du Christ, ce qu'ils ne firent évidemment pas. Une fois Fox fut arrêté et comparu devant un juge, accusé de vagabondage, le juge lui fit retourner ses poches. Le juge déclara aussitôt « Cet homme n'est pas un vagabond, ses poches de lin en sont la preuve ». La qualité, la couleur et la diversité des préférences ne sont pas en conflit avec le « plein » originel. Ce que les Quakers prenaient, c'était d'ignorer les modes de vanité du monde, mais non de créer une mode de la simplicité à suivre. Comme on pouvait s'y attendre, Satan attaquerait la véritable Église avec une grande puissance pour la tromper et la faire devenir un simple faubourg de Babylone. Il attaque partout où il peut établir une forme, une règle ou une observance, comme dans l'habillement. Margaret Fox écrit davantage sur la dérive des Quakers vers une forme vestimentaire. Ci-dessous se trouve la dernière lettre de Margaret Fox aux assemblées de Quakers, écrite dans sa 86e année. Elle avait écrit plus tôt, comme ci-dessus, déplorant la dérive de la foi Quaker vers des formes, abandonnant ainsi l'esprit et la loi intérieure. Mais ses supplications ne furent pas entendues, car dans cette lettre, elle relève l'interdiction des couleurs dans l'habillement comme une erreur supplémentaire et mortelle pour ceux qui pratiquent de telles formes extérieures. Dans ses autres écrits, elle rapporte qu'elle a reçu en cadeau de son mari, George Fox, du tissu de couleur écarlate. De toute évidence, la mère et le père des Quakers ne soutenaient pas l'uniformité de tenue de couleur, ils soutenaient la simplicité, non la fadeur, et ne soutenaient certainement pas le port de vêtements datant de quelques siècles, en les croyant une tenue pieuse. Gardez-vous des scribes, qui aiment à se promener en longue robe, et aiment les salutations sur les places publiques, cela recevront une condamnation plus grande. Luc 20, 46-47, mais toutes leurs œuvres, ils les font pour être vus des hommes, ils élargissent leurs phylactères et allongent les franges de leurs vêtements. Matt 23, 5, elle avertit que cette dérive extérieure vers la forme est un choix entre la vie spirituelle et la mort. Ces avertissements ne furent pas entendus. Ah, amis, frères et sœurs, avril 1700, ces pratiques extérieures, sottes et imaginaires, surgissent et sont pratiquées avec un grand zèle, ce qui a souvent affligé mon cœur. Amis, frères et sœurs, nous sommes le peuple du Dieu vivant, et Dieu nous a visités. Et il nous a fait sortir en un jour favorable de salut, un jour de l'Évangile, où le Dieu éternel rassemble ses élus, des quatre vents du ciel et des quatre coins de la terre, Marc 13, 27. Et il a resplendi du trône de sa gloire dans nos cœurs, dans sa lumière spirituelle, et nous a donné la vraie connaissance de lui-même, dans la face et l'image de Jésus-Christ, il nous a rendus participants de sa nature divine. Il nous a donné son bon et saint esprit pour nous conduire et nous guider en toute vérité, en toute chose. Maintenant, chers amis, frères et sœurs, gardons-nous tous de limiter le Saint d'Israël ou de toucher à quoi que ce soit de contraire à cet Esprit Saint, car la grâce de Dieu suffit pour nous enseigner à renoncer à toute impiété et à toute injustice, et elle nous apprendra à vivre saintement et justement, pour Dieu et sa vérité, dans ce monde présent et mauvais. Gardons-nous de nous mêler des choses de Dieu autrement que selon la conduite et la direction de son esprit. Or, il s'est levé, en certains endroits parmi les amis, un esprit qui veut fabriquer et se mêler, par imagination, de conduire les amis vers des choses extérieures que notre Seigneur Jésus-Christ n'a jamais commandées. Car il a toujours rendu témoignage contre la manière des Juifs de faire et de prescrire des choses extérieures, car son témoignage est dans chaque cœur pour opérer intérieurement et faire de l'intérieur. Gardons-nous donc d'imiter et de façonner, à la manière des Juifs, les choses et cérémonies extérieures. Car bien qu'il soit dit dans l'Écriture que son prophète devait demeurer seul, cela était en ce temps-là sous la loi, lorsqu'il les avait choisis parmi toutes les familles de la terre, pourtant il les punirait pour leurs transgressions. Mais maintenant notre Seigneur béni est venu, et ce n'est pour lui qu'une petite chose que de rassembler les tribus d'Israël et les disperser de Juda. Il est aussi donné, comme une lumière aux nations, et pour être le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Il veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de sa vérité bénie. Il a témoigné contre les pharisiens, qui disaient « Je suis plus saint que toi ». Gardons-nous de cela, de nous séparer ou de nous regarder comme plus saints que nous ne le sommes en acte et en vérité. Car que sommes-nous, sinon ce que nous avons reçu de Dieu ? Dieu est tout suffisant pour amener des milliers dans le même esprit et la même lumière, pour les conduire et les guider, comme il le fait pour nous. Conformons-nous, et façonnons-nous selon la doctrine et la pratique de l'apôtre, qui était dans une lumière glorieuse et éclatante, lisez encore 9, 19 et ainsi jusqu'à la fin. Voyez maintenant combien notre pratique est contraire à celle des apôtres, lorsque nous ne devons pas aller à l'enterrement des gens du monde, ni les inviter à aucun de nos enterrements, ni faire ce qui est modéré et de bonne réputation, quant aux viandes ou aux boissons, lisez encore 1 Cor 10, 27. Si quelqu'un de ceux qui ne croient pas s'il vous invite à un festin, et si vous êtes disposés à y aller, mangez de tout ce qui sera mis devant vous, sans poser de questions par motif de conscience. Ceci, l'invitation au festin est plus important qu'une naissance ou un enterrement, bien que ceci soit nécessaire et requis. Abat ces imaginations fantasques et étroites, et que l'Esprit de Dieu qu'il nous a donné nous conduise et nous guide. Tenons ferme dans la liberté par laquelle Christ nous a affranchis, et ne nous laissons pas de nouveau enlacer dans la servitude, en observant des prescriptions, dans des choses extérieures qui ne profiteront pas et ne purifieront pas l'homme intérieur, ce qui est l'œuvre de Christ Jésus en ce jour-ci. Que chacun, par cela, fasse selon ce dont il est persuadé dans son propre esprit, car l'apôtre a dit qu'il n'était pas là pour régner sur la foi de qui que ce soit. Car voilà maintenant 47 ans que nous avons reconnu la vérité, et tout s'est bien et paisiblement passé jusqu'à présent. Récemment, cette étroitesse et cette rigidité s'introduisent, de sorte que beaucoup ne savent plus quoi faire ou ne pas faire. Nos réunions mensuelles et trimestrielles ont été établies pour reprendre et examiner les conduites superflues ou déréglées, afin que de telles personnes soient averties et instruites dans la vérité. Il ne revient pas à des personnes privées de s'arroger le droit de faire des ordres et de dire « ceci doit être fait » et « cela ne doit pas être fait ». Les amis peuvent-ils croire que ceux qui sont enseignés et guidés par Dieu puissent être soumis à de tels ordres bas et mesquins et les suivre ? Il est donc bon pour les amis de notre pays de laisser ces choses au Seigneur, qui est devenu notre conducteur, enseignant et guide, et de ne pas aller au loin les répandre. Car ils ne feront jamais de bien, mais ont déjà fait du tort. Nous entrons maintenant dans le judaïsme, dans ce contre quoi Christ a crié malheur, en s'occupant entièrement des choses extérieures, en négligeant l'œuvre intérieure du Dieu Tout-Puissant dans nos cœurs. Si nous ne pouvons que nous conformer à des prescriptions et des ordres extérieurs, et refuser de manger et de boire avec nos voisins, au point que de pauvres amis sont tourmentés dans leur esprit, ne sachant que faire, car un ami dit une chose et un autre une autre. Mais Christ Jésus a dit que nous ne devons nous inquiéter ni de ce que nous mangerons, ni de ce que nous boirons, ni de ce que nous mettrons, mais il nous dit de considérer les lits, comment ils croissent avec plus de magnificence que Salomon, Matthieu 6, 28-31. Au contraire de cela, nous ne devons regarder aucune couleur, ni fabriquer quoi que ce soit de couleur changeante comme les collines le sont, ni en vendre, ni en porter. Mais nous devons être tous dans une seule tenue et une seule couleur. C'est un sot et pauvre évangile. Il nous convient bien mieux d'être couverts de l'Esprit éternel de Dieu et revêtus de sa lumière éternelle qui nous conduit et nous guide dans la justice et à vivre justement, équitablement et saintement dans ce monde profane et mauvais. Voilà l'habillement que Dieu met sur nous, qu'il aime et qu'il bénira. Cela fera briller notre lumière devant les hommes, afin qu'il glorifie notre Père céleste qui est dans les cieux, Matthieu 5, 16. Car nous avons Dieu pour enseignant, nous avons ses promesses et ses doctrines, et nous avons la pratique des apôtres en leurs jours et leurs générations. Et nous avons le Saint-Esprit de Dieu pour nous conduire et nous guider, et nous avons la vérité bénie dont nous sommes rendus participants pour être notre pratique. Et pourquoi nous tournerions-nous vers des hommes et des femmes pour un enseignement contraire à ce que commande Christ Jésus et à la pratique des apôtres? C'est là sur quoi reposent ces choses mentionnées plus haut. D'où nous viennent ces fantaisies et ces imaginations? Amis, nous avons un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Christ Jésus. Tenons-nous à lui, sinon nous sommes perdus. Cela ne m'est pas agréable d'avoir cette occasion de vous écrire. Car partout où je l'ai vu paraître, je m'y suis opposé pendant plusieurs années, et maintenant je n'ose plus négliger. Car je vois que notre précieuse et sainte vérité bénie, qui nous a visités dès le commencement, est tenue en bas, et ses pratiques extérieures, sottes et imaginaires, surgissent et sont pratiquées avec un grand zèle, ce qui a souvent affligé mon cœur. Maintenant je vous ai mis devant la vie et la mort, et je vous demande de choisir la vie de 30-19 et Dieu et sa vérité. Margaret Fox, deuxième mois de l'année 1700. Mise à jour d'après la source, Undaunted Zeal, de l'été of Margaret Fell, 2003, Elsa F. Glynn, pp. 468-471, une riche collection de 166 lettres de Margaret Fell avec des commentaires et des notes historiques étendues. Malgré les avertissements multiples de Margaret Fox en 1698-1700, les Quakers irlandais, anglais et américains avaient établi une conformité vestimentaire non écrite, exigée de leurs membres, comme Margaret Fox les en avertit, Ils entrèrent dans une mort spirituelle, croyant que l'habillement contribuait à leur justice, glissant ainsi dans une forme du refus quake originel des rubans superflus, des tresses en or massif et des ornements inutiles en pâte à décor sur les vêtements. En 1752, depuis Amsterdam, Samuel Neill écrivit à Richard Shackleton au sujet des quakes en Hollande. Il n'y a ici aucune conformité de tenue parmi les professants, ce qui est propre à la simplicité de l'Évangile. J'espère que le travail dépensé pour eux, puisqu'il vient de la source de tout bien, agira ainsi avec le don qui est en eux, pour les amener à prendre conscience de leur erreur. Malheureusement, l'erreur supposée des Hollandais était la poutre dans l'œil de l'ensemble du mouvement quake anglophone. Comme on le voit clairement, ces supplications et ces avertissements sur les graves conséquences furent ignorés en 1700 et continuent d'être ignorés en 2007. Comme en témoignent des lettres écrites par des ministres quakers, la conformité vestimentaire devint une exigence universelle en Angleterre, en Irlande et en Amérique vers 1730. Fox et les premiers quakers n'auraient jamais porté une robe, l'habit des hommes saints des siècles passés, pour paraître saints, ni compté sur les vêtements comme un signe de leur religion. Au contraire, leur insigne de religion résidait dans la modération de leur langage et de leur conduite. Ils n'auraient pas non plus porté une croix pour afficher leur piété. S'habiller comme un quake et parler comme un quake ne fait pas de quelqu'un un quake. C'est une forme de piété, sans la puissance de Dieu, éloigne-toi de telle personne. 1 Tim 3, 5 Margaret Fox écrit à William Penn, fondateur de la Pennsylvanie et du West Jersey, en montrant l'amour que les vrais disciples du Christ ont les uns pour les autres. Il y a trois témoignages de l'authenticité de la foi quake primitive. 1 Les persécutions qu'ils ont subies, 2 Les miracles et les signes qui ont accompagné leur ministère, et 3 L'amour qu'ils avaient les uns pour les autres et même pour leurs ennemis. Car le Christ a dit, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. » Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci tous sauront que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. Cette lettre manifeste clairement cet amour. Penn était peut-être le plus proche de Fox parmi tous ses frères, c'est pourquoi il fut choisi pour écrire sa remarquable introduction au journal de Fox. Ici, Margaret Fox écrit à Penn au sujet de la lettre de conseil de Penn, concernant le rétablissement de ces Quakers qui étaient sortis de l'unité, pensant que toute règle de conduite dans leur vie personnelle était une atteinte à leur conscience, comme suit, à William Penn, cher et fidèle que le Seigneur a choisi, reconnu et honoré par sa vérité éternelle, toi qui t'es manifesté comme un véritable disciple de l'agneau. Béni sois-tu à jamais, toi qui as choisi la bonne part, qui ne te sera jamais ôtée, en elle tu aimeras, tu grandiras, tu prospéreras et tu seras revêtu de beauté, de gloire et de majesté. L'amour de mon cœur et de mon âme se souvient tendrement de toi, et mon esprit se réjouit de ta fidélité et de ton zèle dans l'œuvre et le service du Seigneur. Tu es un instrument nouveau et fidèle dans la main du Tout-Puissant pour la diffusion de sa vérité et pour l'exaltation de son royaume. Oh, ton nom sera gardé en mémoire éternelle parmi tous les fidèles, lorsqu'ils entreront dans ce même esprit de grâce, de vie et de puissance par lequel tu es mu et porté pour le bon service que tu rends au Seigneur, pour sa vérité et pour le rassemblement de sa semence élue. Il te le rendra au centuple dans ton sein. Qu'ils sont beaux tes pieds qui annoncent la bonne nouvelle aux pauvres et la liberté aux captifs, est 61:1-2. Des enfants encore à naître béniront le Seigneur pour toi. J'ai reçu ta douce et bénie lettre, qui fut pour moi et pour beaucoup d'autres une grande joie d'apprendre ce bon service pour le Seigneur. Le jour où elle m'est parvenue ici, j'étais dans une réunion, et le Seigneur me poussa à la lire à l'Assemblée. Ce fut une grande consolation, joie et allégresse pour les cœurs des amis d'entendre parler de ton bon service et de la prospérité de la vérité. Ô béni et honoré à jamais par le Saint-Seigneur, qui élargit les limites de ce sanctuaire et répand au loin sa vérité. Béni soit ce qui la publie. Nous avons aussi reçu un écrit de toi très pertinent, concernant la réunion séparée, et hier soir nous en avons reçu un autre de mon mari écrit d'Amsterdam, très pur et très pertinent au même dessein. Mais je ne sais pas si l'un ou l'autre sera lu parmi eux, car les amis ont cherché à leur faire parvenir le tien, et jusqu'à présent, ils ne l'ont pas lu. Ils ne reçoivent rien à lire. Eux et les amis sont maintenant séparés et ils se réunissent à part et entre eux, de sorte qu'ils laisseront à peine un ami venir parmi eux pour lire un écrit. Car lorsqu'ils se réunissaient parmi les amis, ils permettaient à peine que l'on lise tranquillement quoi que ce soit qu'ils jugeaient être contre eux. Certains deviennent plus durs et plus obstinés que jamais, d'autres, plus simples, sont troublés et tourmentés. Nous attendons avec espérance le retour de tels. Les réunions des amis sont plus pertinentes, plus puissantes, plus fraîches et plus vivantes depuis qu'ils s'en sont séparés, qu'elles ne l'ont été depuis bien des années. Thomas Langhorn est ici à présent, il me rend un très bon compte de leurs réunions particulières et générales, ainsi que des réunions d'hommes et de femmes, toutes pourvues de la puissance du Seigneur et de sa présence vivante, loué et honoré soit le Dieu puissant. Ainsi, à présent, tout va bien, autant que nos cœurs peuvent le désirer. Pourtant, les amis sont poussés par le Seigneur à aller parmi eux pour porter leur témoignage contre eux. James Fletcher et Richard Johnson doivent être avec eux demain chez John Wilkinson, et Richard Ray, un ami écossais, doit être avec eux le premier jour. Il est poussé à aller parmi eux, comme vers un prêtre dans une église à clocher, pour rendre son témoignage, puis s'en aller. On craint qu'ils ne soient très rudes et turbulents à leur égard, mais la puissance du Seigneur est au-dessus d'eux, et elle les brisera et les abattra. Cher William, les amis sont ici grandement réjouis et rafraîchis dans le Seigneur à ton sujet, parce que tu as eu un tendre soin des amis durant ces grands voyages et déplacements. Mais ce n'est ni la mer ni la terre, ni la hauteur ni la profondeur, qui peuvent nous séparer de l'amour de Dieu, qui est en Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il a répandu dans les cœurs de son peuple. Ton épître imprimée a été très utile et a été reçue avec beaucoup d'affection parmi les amis. Souviens-toi de mon amour très cher et éternel pour ta chère épouse, que j'honore dans le Seigneur pour sa fidélité, sa constance et son innocence. Que le bras du Tout-Puissant vous préserve et vous garde, tous deux, dans ce lien et cette alliance d'amour et de vie qui ne peuvent jamais être rompus. L'amour de mes filles Sarah, Susanna et Rachel est tendrement et fidèlement rappelé à vous tous deux. Je sais qu'il en est de même de mon fils et de ma fille Lowe, mais ils ne savent pas que j'écris en ce moment. Robert Wide était ici aujourd'hui, et son cher amour est pour toi. Et Thomas Langhorn aussi se souvient de son cher amour pour toi. Ainsi, très cher bien-aimé, c'est tout ce que j'ai pour l'instant, mais mon amour qui ne meurt jamais demeure avec toi, et je suis la tienne, chère amie et sœur dans le Seigneur. Margaret Fox, mis à jour d'après la source, Undaunted Zeal, de l'été of Margaret Fell, 2003, Elsa F. Glynn, pp. 421-422, une riche collection de 166 lettres de Margaret Fell avec de nombreux commentaires et notes historiques. Margaret écrit à George Fox. Daniel, fils de John Abraham, est resté auprès de Margaret et de sa famille après la mort de son père, puis a épousé plus tard la fille de Margaret, Rachel. Par la suite, il acheta Swarthmore Hall, y vivant avec sa famille et Margaret. Comme George et Margaret, il passa aussi du temps en prison pour avoir refusé de payer les dîmes. Margaret écrit à son mari, George Fox, « Cher amour, dans la sainte et bénie unité de la semence de vie qui endure et demeure à jamais, mon amour éternel et cher se souvient de toi. » Et par ceci tu peux savoir que nous sommes bien arrivés à Lancaster, environ 3 jours après t'avoir quitté à Londres. Nous sommes restés plusieurs jours dans le Cheshire et le Lancashire, nous avons eu plusieurs réunions parmi eux, puis nous sommes venus à notre réunion trimestrielle, qui a été la plus grande que nous ayons jamais eue, tant pour les hommes que pour les femmes. La présence puissante du Seigneur était avec nous d'une manière glorieuse, louange à son nom à jamais. Rien n'a encore été fait contre les amis, sinon que l'avocat de l'adversaire a enjoint à plusieurs personnes, créanciers des amis, de ne recevoir aucun de leurs biens. Il se vante beaucoup de ce qu'il fera contre eux, mais pourtant il dit qu'il lui manque son autorité, qui viendra sous peu du roi et des évêques, et alors il recouvrera ses grandes dépenses. Il serait bon de s'informer pour savoir si cela existe ou non. Il a rapporté de Londres que tu avais proposé de t'entendre avec lui et demander un état de ses frais, mais personne ne croit ses mensonges, hormis ceux qui lui ressemblent. Les amis se portent généralement bien, et la vérité prospère et gagne du terrain dans ces contrées, béni soit jamais son saint nom. Wilburn de Sank est mort, ainsi que John Baddeley du Cheshire et John Abraham. Robert Wide est passé par là pour le voir Abraham, mais il était parti quelques heures avant son arrivée, toutefois il est resté pour les funérailles. Il a laissé derrière lui une très douce senteur, tant parmi le monde que parmi les amis. Il fut un homme utile durant sa vie et sa mort fut très réconfortante pour tous ceux qui étaient avec lui, et il a laissé un témoignage vivant pour la vérité. En vérité, j'ai été rafraîchi d'entendre le récit que les amis ont fait de lui au temps de sa maladie et de son départ. John Haddock et plusieurs autres amis ministres étaient à ses funérailles et eurent un grand service, car il y avait beaucoup de grands personnages du pays et de la ville. Son fils Daniel Abraham est venu à la réunion trimestrielle pour prendre l'avis des amis au sujet du testament de son père. Il l'a laissé, lui et sa mère, exécuteurs, et Thomas Ridge et Roger Radcake et mon fils Lowe, Lowe cadet comme fiduciaire. Il semble qu'il désirait vivement que son fils fût quelque temps avec mon fils Lowe. Et en vérité, le jeune homme est si abattu et accablé par la mort de son père que je ne vois pas comment nous pourrions le lui refuser. Et depuis plusieurs mois il est beaucoup éprouvé dans son esprit, n'ayant à la maison personne avec qui être sinon des gens qui ne sont pas des amis. C'est assez dur, et comme c'était aussi le grand désir de son père qu'il passe quelque temps avec mon fils, nous désirons savoir ce que tu en penses. Il le souhaite, mais pour un court temps, ensuite il a l'intention de reprendre une partie du commerce de son père. J'étais hier à Moshe Grange pour voir ma fille, Mary Lowe, qui va assez bien, et ses enfants aussi. Mon fils et elle se souviennent de leur cher amour pour toi. J'ai parlé plusieurs fois à Leonard Fell de venir auprès de toi, mais il pense que ses affaires ne lui permettront pas de venir dans les 2 prochains mois, ce qui, je le crains, sera trop long si tu as besoin de quelqu'un qui soit constamment avec toi. Je te prie de nous faire savoir comment va ta santé et comment tout se passe pour toi. Je serais heureuse si tu étais enclin à rentrer, afin que tu puisses prendre un peu de repos. Je pense que c'est le plus confortable lorsqu'on a un foyer d'y être, mais le Seigneur nous donne la patience de tout supporter. C'est tout pour le moment, mais mon cher amour éternel, immuable, qui ne pense aucun mal, je suis ta chère épouse aimante et fidèle, Margaret Fox. Susan et Rachel se souviennent de leur plus cher amour et devoir envers toi. Mis à jour d'après la source, Undaunted Zeal de l'été of Margaret Fell 2003, Elsa F. Glynn, pp. 436-437, une riche collection de 166 lettres de Margaret Fell avec de nombreux commentaires et notes historiques. Et voici une autre lettre de Margaret à George, souhaitant qu'il puisse rentrer à la maison, mais non au détriment de la diffusion de la vérité du Seigneur. Margaret et George furent critiqués durement et calomniés pour leur séparation fréquente et prolongée, due au ministère de George. Dans ces lettres, nous pouvons entrevoir le sacrifice qu'ils firent tous deux, renonçant à la jouissance de leur compagnie et de leur amour, pour servir le Seigneur, et éprouver une grande sympathie face aux accusations calomnieuses répandues contre eux par ceux qui enviaient leur foi et leur mesure de Christ. Citant son introduction au journal de George Fox, et bien que le Seigneur lui eût procuré une demeure extérieure George Fox, il n'était pourtant pas disposé à y rester, parce qu'elle était si reculée et si éloignée de Londres, où se trouvait l'essentiel de son service. Et mon souci pour Dieu et sa sainte vérité éternelle était alors dans le Nord, où Dieu m'avait placé et établi, de même que pour l'organisation et la conduite de mes enfants et de ma maison, de sorte que nous fûmes tous deux disposés à vivre séparés quelques années pour l'œuvre de Dieu et le service de sa vérité, et à nous priver du réconfort que nous aurions pu avoir en étant ensemble, pour l'amour et le service du Seigneur et de sa vérité. Et si certains en prenaient occasion, ou nous jugeaient sévèrement pour cette séparation, le Seigneur les jugera car nous étions innocents. Dans la lettre ci-dessous, elle fait référence à un présent envoyé par George. Il s'agissait généralement de tissus, une fois d'un tissu écarlate et une autre fois d'un noir d'Espagne. À partir de cette lettre rare, nous pouvons apprécier leur humilité et leur amour l'un pour l'autre. Margaret écrit à son mari, George Fox, Swarthmore, le 18 du 5 mois, 1678. Cher amour, je suis heureuse d'apprendre que le Seigneur te préserve en santé et en capacité de voyager dans son œuvre et son service, pourquoi je loue son saint nom. Nous espérons et attendons qu'il te ramène vers la maison en son temps béni. On t'attend et on te désire beaucoup ici, mais nous devons tous nous soumettre à la volonté et au temps du Seigneur. J'ai reçu ton aimable signe par Leonard Fell, un ami, sans lien de parenté, ce à quoi je ne m'attendais pas, mais je sais que c'est ton véritable amour de te souvenir ainsi de nous. J'ai pensé t'envoyer quelque chose par Mary Fell, mais j'ai considéré que tu n'aurais fait qu'acheter quelque chose avec cela pour moi, comme tu avais coutume de le faire, ce qui m'a amené à y renoncer. Je vois que tu as envoyé des choses aux enfants par Leonard, il ne les a pas encore remises. Mais ta compagnie nous serait plus et meilleure que tout le monde, ou que tout ce que la terre pourrait offrir, mais ce n'est que pour la vérité et le service du Seigneur que nous sommes disposés à renoncer à ta présence ici, nous ne l'échangerions pas contre tout le reste. Aujourd'hui Isabelle s'est mise en route vers l'Écosse. Thomas et Mary Lowe, Sarah, Susanna et Rachel, avec la petite Bessie, leur amour et leurs devoirs sont tendrement rappelés à toi, et ils seraient heureux de te voir ici. Je suis contente de constater que tu as écrit à ma fille Roux. Pauvre femme astérisque, je crains qu'elle n'ait là-bas une vie sans cœur pénible. Que le Seigneur la soutienne dans toutes ses épreuves. Nous désirons beaucoup avoir de tes nouvelles et savoir par quel chemin tu voyages. Tout va bien ici avec nous. Loué et honoré soit le Seigneur, de ta femme bien-aimée et aimante. Margaret Fox astérisque, la fille Roux et Margaret Fell Roux, la fille aînée de Margaret Fox issue de son premier mari décédé, le juge Fell. Margaret Roux venait de voyager à la Barbade avec sa famille. Son mari, John Roux, était un martyr quake, ayant subi de nombreuses cruelles flagellations et emprisonnements, notamment l'oreille coupée, avec 2 compagnons, par les puritains de Boston. La maison familiale des Roux se trouvait à la Barbade, où son père était lieutenant-colonel et riche planteur de canne à sucre. Ainsi, toute référence à une vie sans cœur pénible là-bas devait faire allusion à la chaleur tropicale. Mis à jour d'après la source, Undaunted Zeal de l'été of Margaret Fell 2003, Elsa F. Glynn, p. 425, une riche collection de 166 lettres de Margaret Fell avec de nombreux commentaires et notes historiques, un important pamphlet évangélique de Margaret Fell. Au moment des écrits ci-dessous, Margaret conserva le nom de son premier mari décédé, le juge Fell. En 1669, 11 ans après la mort de son premier mari, Margaret Fell épousa George Fox et devint Margaret Fox, Leur mariage fut ordonné par le Seigneur Jésus à George Fox. Elle s'était déjà établie comme la mère de l'Église, tandis que Fox était reconnu comme le père et le fondateur de la société. On ne peut qu'admirer la profondeur de sa maîtrise des Écritures, sa compréhension de la sanctification, sa condamnation de l'erreur si répandue dans le christianisme, alors comme aujourd'hui encore, son amour et sa compassion pour les âmes auxquelles elle s'adresse, ainsi que la force générale de son témoignage. Un appel à la semence d'Israël, afin qu'elle sorte des ténèbres de l'Égypte et de la maison de servitude, pour entrer dans le pays du repos. Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta force, ô Sion, revêt tes beaux vêtements, ô Jérusalem, la ville sainte, car désormais il n'entrera plus en toi ni incirconcis ni impur. Secoue la poussière, lève-toi et assieds-toi, ô Jérusalem, délivre-toi des liens de ton cou, ô fille captive de Sion. Car ainsi a dit le Seigneur, vous vous êtes vendu pour rien, et vous serez racheté sans argent, et 52:1-3. Maintenant, l'alliance gratuite de la vie éternelle est ouverte devant vous, elle apporte le salut aux Juifs et aux gentils. C'est pourquoi, ô maison de Jacob, venez marchons dans la lumière du Seigneur, qui brille maintenant en ce jour-ci. Glorieusement le Seigneur s'est levé et il brille dans les consciences des hommes, en lui est la vie, et la vie est la lumière des hommes. C'est celui dont Isaïe a prophétisé, ce qui est maintenant accompli, lui qui a dit « Voici vous tous qui avez soif, venez aux eaux, vous qui n'avez point d'argent, venez acheter et manger, oui, venez acheter du vin et du lait sans argent et sans prix, et Jésus-Christ, qui est la source, acte. Et c'est la source que Moïse a vue et dont il a parlé à Israël. Dieu est ton refuge, et sous toi sont les bras éternels. Il chassera devant toi l'ennemi et il le détruira. Israël demeurera alors en sécurité. Seule la source de Jacob sera sur une terre de blé et de vin. Même ses cieux laisseront tomber la rosée. Heureux es-tu, ô Israël, qui est comme toi, peuple sauvé par le Seigneur, le bouclier de ton secours, et qui est l'épée de ton excellence, et tes ennemis seront trouvés menteurs à ton égard, et tu marcheras sur les hauteurs de la terre, 2:33-27-29. Or ceci s'accomplit maintenant en tout ce qui se tourne vers la lumière, qui vient de la vie, qui est la source, ouverte maintenant pour que toutes les nations y affluent, et toutes les nations sauvées marchent dans la lumière de l'agneau. David a vu cela lorsqu'il a dit, « Combien est excellente ta bonté, ô Dieu !» C'est pourquoi les enfants des hommes se confient à l'ombre de tes ailes, ils seront abondamment rassasiés de la graisse de ta maison, et tu les abreuveras des fleuves de tes délices, car auprès de toi est la source de la vie, dans ta lumière, nous voyons la lumière, PS 36:7-9. C'est pourquoi il a dit, « Tremble, terre, devant la présence du Seigneur, devant la présence du Dieu de Jacob, qui a changé le rocher en étendue d'eau et le silex en source d'eau, PS 114:7-8. » Et le jour est venu que Zacharie a vu, lorsqu'il a dit, « En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et pour les habitants de Jérusalem, pour le péché et pour l'impureté. » Et il arrivera en ce jour-là, dit le Seigneur des armées, que j'ôterai du pays le nom des idoles, et on ne s'en souviendra plus. Et aussi je ferai sortir du pays les prophètes et les esprits impurs, Actes 13:1-2. Ceci est accompli, louange au Dieu vivant. Le véritable prophète s'est levé, dont Moïse a dit que le Seigneur le susciterait, lui qui enseigne lui-même son peuple. En lui est la vie, et cette vie est la lumière des hommes. Son nom est le Seigneur, notre justice, et sa lumière conduit à la justice et à la pureté. Et son sang lave et purifie de tout péché tous ceux qui croient et obéissent à l'Évangile. Le jour est venu dont Joël a prophétisé, lorsqu'il a dit, « Le Seigneur rugira de Sion et fera entendre sa voix de Jérusalem. Les cieux et la terre trembleront, mais le Seigneur sera l'espérance de son peuple et la force des enfants d'Israël. Ainsi vous saurez que je suis le Seigneur votre Dieu, demeurant en Sion, ma montagne sainte. Alors Jérusalem sera sainte et aucun étranger n'y passera plus. Et il arrivera en ce jour-là que les montagnes distilleront le vin nouveau, que les collines ruisselleront de lait, que tous les torrents de... Mais pour tous les raides de nuque et les incirconcis de cœur et d'oreille, qui désobéissent à la mesure qu'ils l'ont reçue, pour eux cette source est scellée, mon bien-aimé est comme une source fermée, comme une fontaine scellée, et pourtant il est comme une fontaine de jardin, un puits d'eau vive et des ruisseaux du Liban pour les fidèles et obéissants qui attendent dans la lumière sa manifestation, la seconde fois sans péché, et ceci, tous les fidèles et obéissants en seront témoins. C'est pourquoi, vous tous qui désirez connaître le Dieu vivant, qui désirez une vertu vivante et la grâce pour vos âmes, attendez dans la lumière qui brille dans vos consciences, car cette source de vie est la lumière des hommes, et il n'y a pas de vie à trouver hors de la source, qui est maintenant ouverte pour rassembler toutes les nations ensemble, par sa lumière qui rassemble en un, et qui est l'alliance donnée comme lumière aux gentils, apportant le salut jusqu'aux extrémités de la terre, et vous en serez éternellement témoins comme étant la vérité. Ainsi comme vous aimez vos âmes, tournez-vous vers la lumière et craignez le Seigneur Dieu, car Salomon a dit, « La crainte du Seigneur est une source de vie ». Et encore, la loi du sage est une source de vie, et la loi de Dieu demeure éternellement. Dieu est pur, et sa loi est pure, et la parole du Seigneur demeure éternellement, lui qui a dit, « Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, ceci demeure éternellement, le même Seigneur fait encore sortir d'Égypte et de la maison de servitude. » Ainsi donc, tous les peuples, grands et petits, riches et pauvres, juifs et gentils, barbares, sides, prenez garde à la lumière par laquelle le Seigneur Dieu appelle hors d'Égypte et de Sodome, qui est spirituellement le monde entier, là où notre Seigneur est crucifié. Par cette lumière, qui est la vie de la loi, il appelle encore la semence hors de la servitude. Car Moïse l'a vu lorsqu'il a dit, « Il est venu avec 10 000 de ses saints, de sa droite est sortie pour eux une loi de feu, oui, il a aimé le peuple, tous ses saints sont dans ta main, et ils se sont assis à tes pieds, chacun recevra de tes paroles. Moïse nous a commandé une loi, héritage de l'assemblée de Jacob, 2:33-2:4. Et cet héritage demeure éternellement, pour ceux qui demeurent et persistent dans cette loi de Dieu pure et parfaite. La promesse de Dieu y est attachée, à savoir les grâces sûres de David, et c'est à cette loi que David méditait jour et nuit, la loi de Dieu était dans son cœur, Psaume 2. Prêtez l'oreille, ô mon peuple, à ma loi, inclinez vos oreilles aux paroles de ma bouche. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je prononcerai des énigmes d'autrefois, ce que nous avons entendu et connu, et que nos pères nous ont raconté. Nous ne les cacherons pas à leurs enfants, racontant à la génération à venir les louanges du Seigneur, sa force et les merveilles qu'il a faites. Car il a établi un témoignage en Jacob et donné une loi en Israël, lorsqu'il a ordonné à nos pères de les faire connaître à leurs enfants, afin que la génération à venir les connaisse, même les enfants qui naîtront, qui se lèveront et les déclareront à leurs enfants, afin qu'ils mettent leur espérance en Dieu et n'oublient pas les œuvres de Dieu, mais gardent ses commandements, Psaume 78:1-7. Or, c'est à cette loi que David rend témoignage, et tous ceux qui sont de Dieu rendent témoignage à cette loi, car elle était un statut pour Israël et une loi pour le Dieu de Jacob. Mais ceux qui furent rebelles et obstinés, les enfants d'Éphraïm, ne gardèrent pas l'alliance de Dieu et refusèrent de marcher dans ses lois, et il en est encore ainsi. Le Seigneur se plaint des pasteurs idolâtres, « Mon peuple est détruit faute de connaissance, parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi, tu ne seras plus prêtre pour moi, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Qu'à présent, tous les peuples examinent et recherchent si tous les prêtres et docteurs de cette nation d'Angleterre, ou d'ailleurs, n'ont pas entièrement oublié cette loi et ne l'ont pas jetée derrière leur dos. Et ce qu'ils appellent œuvre la juste loi de Dieu qui demeure éternellement, que l'apôtre a dit spirituel, saint, juste et bonne, il l'appelle une alliance des œuvres, et disent que Christ l'a aboli, ce qui est contraire aux propres paroles de Christ, qui a dit « Ne pensez pas que je sois venu détruire la loi. Je ne suis pas venu la détruire mais l'accomplir, car en vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, il ne passera de la loi ni un iota ni un trait, jusqu'à ce que tout soit accompli, Matthieu 5:17-18. Et quand l'un des pharisiens, qui était docteur de la loi, posa une question à Christ, disant « Maître, quel est le plus grand commandement dans la loi ?» Jésus lui dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, c'est le premier et le grand commandement, et le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Ici, Christ Jésus, qui est la fin de la loi pour la justice, rend témoignage à la juste loi de Dieu, que Moïse enseigna à Israël, qui dit « Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est un seul Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Et ces paroles que je te commande aujourd'hui seront dans ton cœur, 2:6-6. Ici, l'unité du Seigneur est maintenant manifestée, lui qui a envoyé son Fils unique, non pour détruire, mais pour accomplir cette loi, qui est une. Et l'apôtre a dit qu'il vivait sans la loi, mais que lorsque le commandement vint, le péché reprit vie et lui mourut, et pourtant il enseignait la loi d'une manière irréprochable. Voyez maintenant si l'un de vous, pharisien aveugle d'Angleterre, peut expliquer ceci, vous qui niez la loi de Dieu et la jetez derrière votre dos. L'apôtre a dit, « Celui qui pêche sans la loi périra sans la loi, et tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés par la loi, car ce ne sont pas les auditeurs de la loi qui seront justifiés devant Dieu, mais les faiseurs de la loi qui seront justifiés. » Voyez maintenant où vous paraîtrez, vous qui avez jeté derrière votre dos la juste loi de Dieu, et qui n'êtes ministre ni de la loi ni de l'Évangile, car les ministres de l'Esprit, tant sous la loi que sous l'Évangile, rendent témoignage à la juste loi de Dieu, marchent en elle et l'accomplissent, par la force et la puissance de celui qui est la fin de la loi pour la justice. Que celui qui peut le recevoir le reçoive, car les gentils, qui n'ont pas la loi, font les choses contenues dans la loi, ce qui montre l'œuvre de la loi écrite dans leur cœur, leur conscience leur rendant témoignage, au jour où Dieu jugera les secrets des hommes par Jésus-Christ. Ce jour est venu. Et vos discours sur Christ et sur un Dieu ne serviront à rien, vous qui avez jeté derrière votre dos la loi de Dieu. Vous ne venez pas juger les secrets de vos cœurs, mais vos couvertures sont venues à être arrachées, et votre nudité paraîtra. Car de Sion la loi sort, et la parole du Seigneur de Jérusalem. Sion est rachetée par le jugement, et s'est convertie par la justice, et la destruction des transgresseurs et des pécheurs viendra ensemble, et ceux qui abandonnent le Seigneur seront consumés. car vous aurez honte des chaînes que vous avez désirées, et vous serez confondu à cause des jardins que vous avez choisis, et vous serez comme un chêne dont la feuille se fane, et comme un jardin qui n'a point d'eau. Le fort sera comme de l'étoupe, et celui qui l'a fait comme une étincelle, ils brûleront tous deux ensemble, et nul ne les éteindra. Ésaïe 28-31. Vous prêtres de Baal et vos soutiens, vous en serez éternellement témoins, car les derniers jours viennent, et la montagne de la maison du Seigneur est établie au sommet des montagnes, et elle sera élevée au-dessus des collines, et les peuples y afflueront, et beaucoup de nations viendront et diront, « Venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob, il nous enseignera ses voies, et nous marcherons dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole du Seigneur, et ceci s'accomplit en notre jour. » Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple dans le cœur duquel est ma loi, ne craignez pas l'opprobre des hommes, et n'ayez pas peur de leurs injures, car la mite les dévorera comme un vêtement, et le ver les mangera comme du bois. Mais ma justice subsistera à jamais, et mon salut de génération en génération, est 51-7-8. Et le Seigneur a dit par Jérémie, « Ainsi a dit le Seigneur, tiens-toi dans le parvis de la maison du Seigneur, et parle à toutes les villes de Juda qui viennent adorer dans la maison du Seigneur, toutes les paroles que je te commande de leur dire, n'en retranche pas un mot, et tu leur diras, « Ainsi a dit le Seigneur, si vous ne m'écoutez pas pour marcher dans ma loi que j'ai mise devant vous, et pour écouter les paroles de mes prophètes que je vous ai envoyées, alors je ferai de cette maison comme Silo, et de cette ville une malédiction pour toutes les nations. » Prenez donc garde, vous tous prêtres de Baal, qui jetez derrière votre dos la loi de Dieu. Et le Seigneur a dit, parce qu'ils ont abandonné ma loi que j'avais mise devant, qu'ils n'ont pas obéi à ma voix ni marché en elle, mais qu'ils ont marché selon les imaginations de leur propre cœur et après Baal, que leurs pères leur ont enseigné. C'est pourquoi ainsi a dit le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël, voici je les nourrirai d'absinthe et je leur donnerai à boire de l'eau de fiel. De cela vous pouvez être sûrs, Jer 9-13. Et le Seigneur a dit par Zacharie, oui, ils ont rendu leur cœur comme une pierre de diamant, de peur d'entendre la loi et les paroles que le Seigneur des armées envoyait par son esprit, par les prophètes d'autrefois. C'est pourquoi une grande colère est venue de la part du Seigneur des armées. C'est pourquoi il est arrivé que, comme il appelait et qu'il n'écoutait pas, ainsi ils appelèrent et je n'écoutais pas, dit le Seigneur des armées, Zach 7 12-13. Ainsi donc, tous les peuples, comme vous désirez la paix et la consolation de vos âmes, tournez-vous vers la loi écrite dans vos cœurs, que le Seigneur a mise au-dedans de vous, afin que vous sachiez qu'il est votre Dieu, et que vous soyez son peuple, de sorte que vous n'ayez pas besoin de dire « Connaissez le Seigneur, car tous le connaîtront du plus petit au plus grand. » Quand le Seigneur apparut à Abraham, il lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois parfait, voici une loi, et elle demeure éternellement. » Il dit « J'établirai mon alliance entre moi et toi, et ta postérité après toi, dans leur génération, comme une alliance éternelle, afin d'être ton Dieu et le Dieu de ta postérité après toi. » Tout mâle parmi vous sera circoncis, Gênesis 17, 1-12. Vous circoncirez la chair de votre prépuce, et ce sera un signe de l'alliance entre moi et vous. Ceci est le sceau de l'alliance, la circoncision du cœur, et l'apôtre a dit, il lui donna l'alliance de la circoncision, Actes 7-8. Et encore, il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice de la foi qu'il avait lorsqu'il était incirconcis, afin d'être le père de tous ceux qui croient, quoiqu'il ne soit pas circoncis extérieurement, Rome 4-11. Nous sommes la circoncision, nous qui adorons Dieu par l'Esprit et n'avons aucune confiance dans la chair, et ceci est le sceau de l'Alliance qui subsiste à jamais pour toute la semence d'Abraham à qui la promesse est faite. Si le Seigneur du sabbat ne nous avait laissé une semence, nous aurions été comme Sodome et semblables à Gomorre. Que dirons-nous donc? Que les gentils, qui ne poursuivaient pas la justice, ont atteint la justice qui vient de la foi? Mais Israël, qui poursuivait la loi de justice, n'est pas parvenu à la loi de justice parce qu'il ne la recherchait pas par la foi, mais comme par les œuvres de la loi, car ils ont heurté la pierre d'achoppement, Rome 9, 29-32. Et c'est là que trébuchent tous les bâtisseurs et pharisiens de ce siècle, qui ne connaissent ni la lumière ni la vie de la loi. Ils tiennent pour rien la pierre angulaire, Christ Jésus la lumière, qui est le rocher sur lequel toute l'Église est bâtie, et par lequel juifs et gentils doivent venir au salut. Cela devait arriver, car il est écrit, « Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement, un rocher de scandale, et quiconque croit en lui ne sera point confus. » À cause de leur trébuchement et de leur rejet de la pierre angulaire, Christ Jésus la lumière, dont l'acceptation est le premier pas dans le chemin, la vérité et la vie, parce que nul ne vient au Père que par lui, et tant qu'ils sont hors de ce chemin et trébuchent à la lumière, ils ne connaîtront jamais la vraie foi et ne viendront jamais à atteindre la loi de justice. Parce qu'ils ne la recherchent pas par la foi de notre Seigneur Jésus-Christ, qui ne fait point exception de personne, mais est un mystère gardé dans une conscience pure, que la conscience souillée ne peut jamais connaître. Vous en serez éternellement témoins. Repentez-vous donc et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés lorsque viendront de la présence du Seigneur les temps de rafraîchissement, comme l'a dit l'apôtre, et il enverra Jésus-Christ, qui vous a été annoncé auparavant que les cieux doivent recevoir jusqu'au rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé par la bouche de tous ses saints prophètes depuis le commencement du monde. Car Moïse a dit au Père, le Seigneur vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, vous l'écouterez en toutes choses, tout ce qu'il vous dira, et il arrive. Et maintenant ce prophète s'est levé dans les consciences des hommes, et il enseigne son peuple par sa lumière, lui qui est la lumière du monde, et voici la condamnation du monde, la lumière est venue, et les hommes ont aimé les ténèbres plutôt que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Mais ils ne peuvent fuir la lumière qui brille dans leur conscience. Un jour, elle les découvrira, tous ceux qui la haïssent, elle est leur condamnation pour toujours, mais tous ceux qui lui obéissent et marchent en elle ne marcheront pas dans les ténèbres, mais auront la lumière de la vie. Oui, tous les prophètes, depuis Samuel et ceux qui suivirent, tous ceux qui ont parlé, ont également annoncé ces jours. Vous êtes les enfants des prophètes et de l'alliance que Dieu a faite avec nos pères, disant à Abraham, « Et en ta semence seront bénies toutes les familles de la terre. À vous d'abord Dieu ayant suscité son Fils Jésus, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. » Actes 3, 24-26. La lumière de Jésus rend manifeste le péché et l'iniquité, et fait passer des ténèbres à la lumière. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé dans la justice, je te prendrai par la main, je te garderai, et je te donnerai comme alliance au peuple, comme lumière aux gentils pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir les prisonniers de la prison, et ceux qui sont assis dans les ténèbres, de la maison de détention. C'est lui qui apporte le salut aux juifs et aux gentils, qui ramène la captivité de toute la semence d'Abraham, à qui la promesse est faite, qui est oint pour annoncer la bonne nouvelle aux humbles, qui est envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la liberté aux captifs. Christ Jésus la lumière, qui est l'alliance éternelle et le serment de Dieu, est établi prêtre pour toujours selon l'ordre de Melchizedek, roi de Salem, prêtre du Dieu Très-Haut, qui rencontra Abraham revenant de la défaite des rois et le bénit, à qui aussi. Vous tous pauvres gens juifs et gentils, cessez de prêter attention à vos prêtres changeants, car Christ Jésus l'immuable s'est levé pour enseigner son peuple. Il est établi prêtre par le serment de Dieu, qui ne peut jamais être révoqué mais demeure pour toujours, pour juifs et gentils, barbares, sages, esclaves et libres. Lui qui a abattu le mur de séparation entre nous et a fait des deux un seul homme nouveau, comme l'apôtre l'a dit, afin que la bénédiction d'Abraham vienne sur les gentils par Jésus-Christ, et que nous recevions la promesse. Or c'est à Abraham et à sa semence que les promesses ont été faites. Il n'a pas dit aux semences comme s'il y en avait plusieurs, mais comme à une seule, et à ta semence qui est Christ. Et je dis ceci, l'alliance confirmée auparavant par Dieu en Christ, la loi survenue 430 ans après ne peut l'annuler, de sorte qu'elle rende la promesse sans effet, Galates 3:14-17. C'est cette semence que le Seigneur a promise, qui sera connue parmi les gentils, et leur descendance parmi tous les peuples, et ceux qui les verront les reconnaîtront, qu'ils sont la semence que Dieu a bénie. C'est pourquoi vous tous, comme vous désirez la rédemption de vos âmes, tournez-vous vers la lumière de Jésus-Christ, qui met au jour vos mauvaises œuvres et les pensées secrètes de vos cœurs, qu'elles sont vaines, telle est la lumière par laquelle le Seigneur enseigne son peuple, par laquelle toute la semence d'Israël, juif et gentil, sera sauvée selon ce qui est écrit, il sortira de Sion le libérateur, et il détournera de Jacob l'impiété. Et ceci est mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés, Romains 11:26-27. Ne trompez donc pas vos âmes, il n'y a pas d'alliance là où les péchés ne sont pas ôtés. Ceux qui sont étrangers à la vie sont étrangers à l'alliance de la promesse. Là où il n'y a pas la circoncision du cœur, l'ablation du prépuce et le déchirement du voile, là où cela n'est pas, il n'y a pas de sceau de l'alliance, et vous en serez éternellement témoins comme étant la vérité. Ainsi tournez tous vos esprits vers la lumière de Jésus et marchez dans sa lumière, afin que les yeux de votre intelligence soient éclairés, pour que vous sachiez quelle est l'espérance de son appel et quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints. Et prenez garde, je vous exhorte, en la présence du Seigneur, à ne pas marcher dans les vanités de vos pensées, ayant l'intelligence obscurcie, étant séparés de la vie de Dieu, par l'ignorance qui est en vous, à cause de l'aveuglement de vos cœurs, et devenant ainsi insensibles, en sorte de se livrer à toute impureté avec avidité. C'est pourquoi, puisque vous aimez vos âmes, tournez-vous vers la lumière de Jésus, afin d'être instruits et enseignés par lui, qui est le Rédempteur d'Israël, le Saint. À qui il est dit, « C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et ramener les survivants d'Israël. Je te donnerai aussi pour lumière des nations, afin que mon salut s'étende jusqu'aux extrémités de la terre. » Ainsi a dit le Seigneur, « Au temps favorable, je t'ai exaucé et je te préserverai. Et je te donnerai pour alliance du peuple, pour affermir la terre, pour faire hériter des héritages dévastés, afin que tu dises aux prisonniers « Sortez », et à ceux qui sont assis dans les ténèbres « Montrez-vous ». Ceci s'accomplit en notre jour, et sa lumière s'est levée, qui apportera le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et toutes les nations qui sont sauvées marcheront dans cette lumière, laquelle dit aux prisonniers « Sors », et à celui qui est longtemps resté assis dans les ténèbres. C'est pourquoi vous tous, tournez vos pensées vers la loi et vers le témoignage écrit dans vos cœurs, afin que vous veniez à connaître la révélation de Jésus, qui est un mystère lequel, dans les autres âges, n'a pas été révélé au fil des hommes comme il est maintenant révélé par son esprit. afin que les gentils soient cohéritiers d'un même corps et participants de sa promesse, selon le dessein éternel qu'il a formé en Christ Jésus notre Seigneur avant le commencement du monde. Car la loi extérieure, écrite sur des tables de pierre, qui n'était que pour les Juifs, est changée. La circoncision extérieure, le sabbat extérieur, les prêtres extérieurs et le temple extérieur, tout cela était figure, types et ombres de celui qui devait venir. Le corps et la substance de ces choses, c'est Christ Jésus, qui vient accomplir la loi et qui est la fin de la loi pour la justice. Lui qui lave, purifie et nettoie par son sang tous ceux qui viennent au Père par lui. Car Christ n'est pas entré dans des lieux saints faits de mains d'hommes, qui sont la figure des vrais, mais il est entré dans le ciel même, pour comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Car si l'aspersion du sang des taureaux et des boucs et de la cendre d'une génisse sanctifie ceux qui sont souillés, combien plus le sang de Christ, qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il vos consciences des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. C'est pourquoi il est le médiateur du Nouveau Testament, afin que, par la mort survenue pour la rédemption des transgressions commises sous le Premier Testament, ceux qui sont appelés reçoivent la promesse de l'héritage éternel. Car il n'y a point d'acception de personne devant Dieu, la circoncision profite vraiment si vous gardez la loi, mais si vous transgressez la loi, votre circoncision devient incirconcision. Si donc celui qui n'est pas de la circoncision, comme le Juif l'est extérieurement, garde la loi, en gardant la loi il vous juge, vous qui êtes de la loi selon la lettre extérieure, car n'est pas Juif celui qui l'est extérieurement, et n'est pas circoncision celle qui est extérieure dans la chair, mais est Juif celui qui l'est intérieurement, et la circoncision est celle du cœur, en esprit et non en lettre, sa louange ne vient pas des hommes mais de Dieu. Ainsi la loi selon la lettre au dehors, qui est un commandement charnel, et le sacerdoce au dehors, et les offrandes de sacrifice, et les ablutions extérieures, tout cela il a aboli et ôté, effaçant l'acte écrit des ordonnances qui étaient contre nous, et l'a ôté du milieu, le clouant à sa croix. Que personne donc ne vous juge au sujet d'une nouvelle lune ou des jours de sabbat, qui ne sont que l'ombre des choses à venir. Mais le corps est Christ, qui est la lumière, laquelle s'est levée dans la conscience, et qui purge et purifie la conscience par son esprit des œuvres mortes, afin de servir le Dieu vivant. Ceux qui avaient la loi extérieure ne connaissaient pas cela, comme Étienne le leur a testé, lui qu'ils lapidèrent à mort. C'est ce que Moïse dit aux enfants d'Israël, « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera un prophète d'entre vos frères, vous l'écouterez. » C'est celui qui était dans l'église au désert avec l'ange qui lui parlait sur le mont Sinaï, Actes 7 37-38. Ainsi c'est lui qui leur parlait sur le mont Sinaï, et qu'ils ne voulurent pas écouter. Mais ils le repoussèrent dans leur cœur, disant à Aaron « Fais-nous des dieux !» Et ainsi ils firent un veau, abandonnèrent le Dieu vivant, et Dieu se détourna d'eux et les livra à adorer l'armée du ciel. Étienne leur parla ouvertement, à eux qui étaient juifs extérieurement, qui avaient la loi extérieure, la circoncision extérieure, le prêtre, le temple, le sabbat et les sacrifices extérieurs, et dit « Vous, gens aux coups raides et incirconcis de cœur et d'oreille, vous résistez toujours au Saint-Esprit. » Comme vos pères, ainsi vous. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Et ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, dont vous avez maintenant été les traîtres et les meurtriers, vous qui avez reçu la loi par le ministère des anges, et ne l'avez pas gardée. Ainsi ce sont ceux qui avaient la loi extérieure, qui leur avait été donnée par le ministère des anges, mais n'en vivaient pas la vie, et ainsi ils tuèrent et trahirent le juste, venu accomplir la loi. Quand Étienne leur eut dit ces paroles, ils grinçaient des dents contre lui, prirent des pierres et le lapidèrent. Ainsi tous ceux qui viennent rendre témoignage de la vie et de la substance de la loi et des prophètes, Christ Jésus la pierre angulaire, viennent à être persécutés par ceux qui ne connaissent pas la loi. Car l'apôtre a dit, « Ne savez-vous pas, frères, car je parle à ceux qui connaissent la loi, que la loi a autorité sur l'homme tant qu'il vit, mais ceux-là, ils ne le savent pas, ceux qui sont vivants sans la loi. Et tous ceux qui pêchent sans la loi périront sans la loi. » Car l'apôtre a dit, « J'étais autrefois vivant sans la loi, mais quand le commandement est venu, le péché a repris vie, et moi je suis mort. Mais cela est un mystère pour les sans-loi et les désobéissants pour lesquels la loi est. Et la loi a été ajoutée à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la semence, que celui qui peut le recevoir le reçoive. Mais maintenant, dit l'apôtre, nous sommes délivrés de la loi, étant morts à ce par quoi nous étions retenus, afin de servir dans la nouveauté de l'esprit et non dans la vieillesse de la lettre. » Mais pour les hommes de la lettre, qui ne sont que des ministres de la lettre, ceci est un mystère, eux qui ne connaissent ni la vie de la loi ni l'Évangile. Ils se sont assis sur le siège des scribes et des pharisiens, qui avaient la loi et les prophètes lus extérieurement chaque jour de sabbat, et pourtant ne connaissaient pas la vie de Moïse, qui a écrit de Christ et a dit « Le Seigneur suscitera un prophète semblable à moi, moi qui parlais à Dieu face à face ». Les prophètes ont prophétisé de Christ, de la venue du juste et de ses souffrances, comment il devait être mené comme une brebis à l'abattoir, et comment il devait être comme un agneau muet devant ceux qui le tondent. Bien qu'ils lisent cela hors d'eux, quand cela vint à s'accomplir, ils étaient si aveugles qu'ils ne le virent pas, et ainsi ils crucifièrent le Seigneur de la vie. Mais maintenant la bête a pris une autre couleur, et maintenant ses ministres se sont emparés des paroles de Christ et de ses apôtres. Ils prennent ces paroles et se sont assis sur le siège des pharisiens où Christ les trouva lorsqu'il vint et contre lesquels il prononça « Malheur ». Ici ils sont assis, parés des paroles de Christ, des paroles des apôtres et des paroles des saints. Par ces moyens, ils continuent de tromper les pauvres gens et de trafiquer leurs âmes, disant des choses qu'ils ne devraient pas dire pour un gain honteux, ne servant pas le Seigneur Jésus-Christ mais leur propre ventre. Ils trahissent et assassinent de pauvres âmes, et font tout ce qui est en leur pouvoir, dépensant toute leur force contre la vérité de Dieu, qui s'est maintenant levée en ce jour, en vie et en puissance, et les rend manifestement des faux prophètes et des séducteurs de l'Antichrist, qui sont sortis dans le monde dont Jean a parlé. Maintenant la lumière s'est levée, et ils sont manifestés, démasqués par la lumière. Gloire et louange au Seigneur à jamais, lui qui rassemble son troupeau, qui avait été dispersé d'entre leurs bouches. Car ainsi a dit le Seigneur, « Je chercherai moi-même mes brebis et je les rechercherai. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et elles se coucheront dans une bonne bergerie, et j'établirai sur elles un seul berger, et elles ne seront plus une proie pour les païens, et les bêtes des champs ne les dévoreront plus. » Malheur aux bergers, dit le Seigneur, qui se sont repus eux-mêmes et non le troupeau, qui se nourrissent de la graisse et se vêtent de la laine. Le Seigneur vient pour tirer vengeance d'eux. La lumière s'est levée, qui les rend manifestes comme faux prophètes et antichrist. Ils semblaient être tous de vrais prophètes jusqu'à ce que vint la lumière, qui les a manifestés par leurs fruits, tandis qu'ils étaient vêtus d'une peau de brebis, des paroles des saints et des paroles de Christ, sépulcre blanchi, beaux au dehors. Mais maintenant que le vrai prophète, Christ Jésus, s'est levé, celui dont Moïse a dit que le Seigneur le susciterait, ils apparaissent en vérité être les faux prophètes dont Christ nous a dit de nous méfier, qui viennent en vêtements de brebis mais sont intérieurement des loups ravisseurs. Nous les connaissons à leurs fruits. Ce sont eux qui disent « Le voici ici » et « Le voilà là », mais Christ a dit « Ne les croyez pas ». Toutes leurs pratiques et leurs labeurs consistent à s'opposer à la vérité de Dieu et à la persécuter, telle qu'elle est en Jésus, maintenant manifestée en ses saints. Ils nient et combattent la lumière, alors que tous les ministres de Dieu, qui jamais ont enseigné pour Dieu, ont détourné les gens des ténèbres vers la lumière et de la puissance de Satan vers Dieu. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour détourner les gens de la lumière et pour les maintenir dans les ténèbres. Ainsi, les voilà qui s'emploient à tenir les gens éloignés du premier principe qui mène à Dieu, car la lumière est le premier principe de la religion pure et sans tache devant Dieu. Certains d'entre eux nient la lumière et d'autres l'appel naturel, et ainsi ils nient Christ Jésus, qui est donné comme une alliance de lumière, la vraie lumière, qui éclaire tout homme venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde a été fait par lui, et le monde ne l'a pas connu. Et ainsi ces antichrists et séducteurs entrés dans le monde ne le connaissent pas, lui qui a dit « Je suis la porte des brebis, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et sortira, et trouvera des pâturages. » Mais ces voleurs et brigands, qui sont des mercenaires, qui ne viennent que pour voler, tuer et détruire, comme Christ l'a dit, détournent de la porte, et ils nient ce par quoi chacun entre, ceux qui sont sauvés, la lumière, Christ Jésus, qui est la pierre angulaire et le roc sur lequel toute l'Église est bâtie. Ils nient que cette lumière soit suffisante pour enseigner le salut. Ils nient la nouvelle alliance, la loi écrite dans le cœur, et appellent l'obéissance à la lumière et à la loi de Dieu une alliance d'œuvre. Ils voudraient que la loi et les prophètes, Christ et les apôtres soient matière à discours, et ils volent leurs paroles, sans jamais s'attendre à venir dans la vie et l'état des prophètes, de Christ et des apôtres. Ainsi ils nient la révélation et l'enseignement de l'Esprit, et voudraient dérober ce que les prophètes, Christ et les apôtres ont écrit, pour se l'approprier, en répétant leurs paroles sans posséder l'Esprit par lequel elles ont été écrites, tout en prétendant qu'ils comprennent pleinement les paroles, assez pour enseigner aux autres ce qu'elles signifient. Ainsi ils s'emploient à faire croire aux pauvres gens, ignorants de Dieu et de toute vérité, qu'ils peuvent servir Dieu avec leurs paroles volées. Lui qui est un Dieu de vérité, un Dieu jaloux, un Dieu juste et équitable, qui rend à chacun selon ses œuvres. Ils, ses ministres, sans l'esprit des apôtres le sauront un jour, quand ils auront comblé la mesure de leur père, les pharisiens et les scribes qui crucifièrent Christ, que surviendra tout le sang juste qui a été versé depuis Abel. Ainsi ils continuent et prêchent le péché, que nul ne peut être libre du péché tant qu'il est sur la terre, et l'impossibilité de la perfection. Ils prennent les paroles des apôtres et de Christ, et nient tout à fait ce pourquoi ils ont parlé, prêché, prié et travaillé, présenté tout homme parfait en Christ Jésus. Ainsi vous tous, pauvres gens, Si jamais vous désirez connaître le Dieu vivant et la vérité vivante telle qu'elle est en Jésus, ou si jamais vous attendez la rédemption de vos âmes, détournez-vous de ses séducteurs et tournez-vous vers la lumière de Jésus, qui vous fait voir la tromperie de vos cœurs. C'est par elle que tous ceux qui ont jamais connu Dieu ont été conduits, par la loi pure et parfaite de Dieu écrite dans le cœur. David a dit « Heureux l'homme que tu châties, ô Seigneur, et que tu instruis par ta loi. » Et l'apôtre a dit « Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. » Ainsi que tous aient à cœur la loi pure de Dieu, qui demeure jusqu'à ce que tout soit accompli, car la loi est sainte, le commandement est saint, juste et bon. Car ce que la loi ne pouvait faire, parce qu'elle était faible à cause de la chair, Dieu l'a fait, en envoyant son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et pour le péché, il a condamné le péché dans la chair, afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair mais selon l'Esprit. Et ainsi comme vous marchez dans la lumière et dans la loi de Dieu, dans l'homme intérieur, vous verrez et saurez ce qu'est l'accomplissement de la loi de Dieu. Et alors vous verrez ce que l'apôtre a dit quand il a dit, même. 3:21. Si comme vous êtes conduits par la lumière et l'Esprit éternel, vous connaîtrez la loi de l'Esprit de vie, qui a franchi du péché et de la mort. Et comme vous demeurez dans la lumière de Jésus-Christ qui est une en tout, alors vous viendrez à connaître et à voir que juifs et gentils sont tous sous le péché, comme il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un. Il n'y a personne qui comprenne, il n'y a personne qui cherche Dieu. Tous se sont égarés, tous sont ensemble devenus inutiles. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, non pas un. C'est-à-dire pour faire descendre Christ d'en haut, ou qui descendra dans l'abîme, c'est-à-dire pour faire remonter Christ d'entre les morts, mais que dit-elle ? La parole est près de toi, dans ton cœur et dans ta bouche. Et c'est la parole de la foi que nous prêchons, car si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est du cœur que l'on croit pour la justice, et c'est de la bouche que l'on fait confession pour le salut, car il n'y a point de différence entre le juif et le grec, puisque le même Seigneur de tous est riche pour tous ceux qui l'invoquent, et quiconque invoquera le Seigneur sera sauvé. Ne soyez donc pas des auditeurs seulement, mais des pratiquants de la parole. Rejetez toute souillure et tout excès de malice, et recevez avec douceur la parole implantée, qui peut sauver vos âmes. Quiconque regarde attentivement dans la loi parfaite de la liberté et y persévère, n'étant pas un auditeur oublieux mais un pratiquant de l'œuvre, celui-là sera heureux dans ce qu'il fait. Si vous accomplissez la loi royale selon les Écritures, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien, mais si vous faites exception de personne, vous commettez. Et ainsi tous ceux qui sont enseignés par la mesure éternelle et pure de Dieu sont conduits par la loi pure, car l'apôtre a dit « Je n'aurais pas connu le péché si ce n'est par la loi, je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « Tu ne convoiteras pas ». Ainsi tous les enfants du Seigneur sont enseignés par le Seigneur, et ils sont affermis dans la justice et loin de l'oppression. Par la loi et par le témoignage ils sont enseignés, et ceux qui sont enseignés du Seigneur connaissent le Seigneur comme leur roi et législateur, et Christ Jésus, qui est donné comme une alliance de lumière pour les juifs et pour les gentils, pour être le chemin, la vérité et la vie, lui qui a dit « Nul ne vient au Père que par moi ». La lumière de Jésus-Christ est le guide, l'enseignant et le conducteur de tous ceux qui viennent au Père. L'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que la promesse, par la foi de Jésus-Christ, soit donnée à ceux qui croient. Ainsi tournez-vous vers la lumière, croyez en la lumière, et attendez dans la lumière pour recevoir la promesse. Car il n'y a ni juif ni grec, il n'y a ni esclave ni libre, il n'y a ni homme ni femme, parmi ceux qui croient en la lumière, marchent dans la lumière et obéissent à la lumière. Mais ils sont tous un en Christ Jésus, et s'ils sont à Christ, s'ils marchent dans la lumière de Christ et demeurent dans la lumière de Christ, alors ils sont la postérité d'Abraham et héritiers selon la promesse, et l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait. 3:8 Et le Seigneur dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire, puisqu'Abraham deviendra une grande et puissante nation, et que toutes les nations de la terre seront bénies en lui ?» Genèse 18:17-18 C'est l'Évangile éternel et la promesse de Dieu à toutes les générations qui croient, car tous ceux qui sont de la foi sont bénis avec Abraham le fidèle. Ainsi attendez tous dans la lumière pour connaître la loi de Dieu, juste et pure, qui a été ajoutée à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la semence à qui la promesse avait été faite, loi établie par des anges, par la main d'un médiateur. Or un médiateur n'est pas médiateur d'un seul, mais Dieu est un. Que celui qui a des yeux voit, et là où l'œil est ouvert, tous voient œil à œil lorsque le Seigneur ramène Sion, et la lumière du corps c'est l'œil, et si l'œil est simple, tout le corps est plein de lumière. En marchant dans la lumière, en attendant dans la lumière et en demeurant dans la lumière, vous lirez et comprendrez ceci. Jésus leur dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et comme vous marchez dans la lumière, vous suivez l'agneau, qui est la lumière de la sainte cité. Et comme vous demeurez et persévérez dans la lumière, vous viendrez avoir les deux fils qu'Abraham eut, l'un d'une servante et l'autre d'une femme libre, ce que l'apôtre dit être une allégorie. Car ce sont, dit-il, les deux alliances, l'une du mont Sinaï, qui enfante pour la servitude cet Agar, et correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants, mais l'autre est la Jérusalem d'en haut, qui est libre, et qui est la mère de nous tous. Car il est écrit, « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes pas, mais ceci est un mystère pour tous les esprits ténébreux et impurs. » Lisez Ésaïe 54. Christ Jésus a dit, « Tant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin d'être enfant de la lumière. Marchez pendant que vous avez la lumière, de peur que les ténèbres ne vous surprennent, car celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Et hors de la lumière, le chemin, Christ Jésus, se trouve tant juif que gentil. Mais la lumière du glorieux évangile s'est levée, et le désir de toutes les nations est venu, lui qui ébranlera toutes les nations. Il remplira sa maison de gloire. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit le Seigneur des armées. Et en ce lieu je donnerai la paix, dit le Seigneur des armées, selon la parole par laquelle j'ai fait alliance avec vous quand vous sortîtes d'Égypte. Ainsi mon esprit demeure au milieu de vous. Car ainsi a dit le Seigneur, encore une fois, dans peu de temps j'ébranlerai les cieux, la terre, la mer et le sec. C'est pourquoi réjouis-toi beaucoup, fille de Sion, pousse des cris, fille de Jérusalem, voici ton roi vient à toi. Il est juste apportant le salut humble et monté sur un ânon le petit d'une ânesse. Et je retrancherai le char d'Éphraïm et le cheval de Jérusalem, et l'arc de guerre sera retranché, et il annoncera la paix aux païens. Et sa domination s'étendra d'une mer à l'autre, et du fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Quant à toi aussi, par le sang de ton alliance, j'ai fait sortir tes prisonniers de la fosse. C'est pourquoi ceci est le jour de votre visitation, vous prisonniers qui êtes dans la fosse sans eau, tournez-vous vers la forteresse, le rocher, Christ Jésus la lumière, afin qu'il dit aux prisonniers « Sors », et à celui qui est assis dans les ténèbres « Montre-toi ». Et par nul autre chemin ni non sous le ciel vous ne connaîtrez jamais la résurrection sinon par Jésus-Christ, qui est la lumière, le chemin, la vérité et la vie. Lui qui a dit « Je suis la résurrection et la vie ». Celui qui croit en moi, quand même il serait mort, vivra. Ainsi si vous désirez la vie de vos âmes, la résurrection du prisonnier qui est dans la fosse sans eau, tournez-vous vers la lumière et écoutez attentivement la parole qui est proche dans le cœur. Prêtez l'oreille, afin que vos âmes vivent, car le Seigneur a dit « Je ferai avec vous une alliance éternelle, les grâces assurées de David ». Voici je l'ai donné pour témoin au peuple, pour chef et pour commandant. C'est lui qui conduit Joseph comme un troupeau, lui qui était mort mais qui est vivant et dont le nom est appelé la parole de Dieu. Et la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient par la parole de Dieu. Et nul ne peut entendre sans ce prédicateur envoyé, qui est oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, la liberté aux captifs, qui est le prédicateur de justice, qui prêche aux esprits en prison, qui ouvre la porte de la prison et fait sortir le prisonnier. Et le sacerdoce éternel est attesté, par une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés, et le Saint-Esprit aussi nous en rend témoignage. Le Saint-Esprit sanctifie Christ Jésus, l'offrande éternelle rend parfait ceux qui sont sanctifiés, le sang de l'Alliance sanctifie. C'est pourquoi Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Hébreux 13-12. Ainsi vous tous, tournez-vous vers la mesure de la lumière, qui rend le péché manifeste. Et si vous marchez dans la lumière, comme il est dans la lumière, le sang de Jésus-Christ purifie de tout péché. Et ici est la communion les uns avec les autres. L'apôtre parlant de ceux qui n'hériteront pas du royaume de Dieu, dit aux Corinthiens, tels étaient quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom de notre Seigneur Jésus, et par l'Esprit de notre Dieu encore. 6-11. Ainsi, à la lumière pure, que tout soit obéissant. Car Pierre écrivit aux élus, selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ, 1 Pierre 1-2. C'est par là que tous sont sanctifiés, juifs et gentils. Tous ceux qui viennent à Dieu par lui sont sanctifiés par son sang. Lui qui, de la part de Dieu, nous a été fait sagesse, justice, sanctification et rédemption. Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, et je les écrirai dans leurs pensées, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or là où il y a rémission de ces choses, il n'y a plus d'offrande pour le péché, Hébreux 10-18. Ainsi demeurez tous dans la lumière, qui est donnée aux gentils, et pour alliance au peuple, et pour l'ouverture des yeux des aveugles, car telle est la volonté de Dieu, votre sanctification. Et l'apôtre rendit grâce à Dieu, qui les avait choisis pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et la foi en la vérité, 2-2-13. C'est pourquoi attendez tous dans la lumière, attendez le Seigneur, et tenez ferme dans vos mesures, afin de sanctifier le Seigneur dans vos cœurs et d'être sanctifiés en Christ Jésus, qui, par une seule offrande, a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés, et nul autre. Ne trompez donc pas vos âmes, car Christ a été offert une fois pour porter les péchés de plusieurs, et à ceux qui l'attendent il apparaîtra une seconde fois, sans péché pour le salut. Ainsi attendez tous dans la lumière son apparition, et pour vous qui le cherchez et l'attendez dans la lumière, vous le verrez apparaître la seconde fois sans péché pour le salut. Et comme le jour se lève, l'étoile du matin se lèvera dans vos cœurs, et vous le verrez et le saurez, si vous êtes fidèles et attendez dans la lumière, et que vous entendiez ou que vous vous absteniez, vous en témoignerez éternellement comme vérité. Margaret Fell, 1668, mis à jour d'après son livre, à brief collection of remarquables passages, Londres, 1710 pp. 468-507. Margaret Fell, pour aller plus loin dans l'observation de la loi, beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui pensent qu'ils n'ont rien à changer dans leur vie, que Dieu les aime, les approuve tels qu'ils sont, que leur vie pécheresse de cupidité, mensonge, plaisir, convoitise, envie, jalousie, immoralité sexuelle, etc., est entièrement excusée par Christ avec un laissez-passer gratuit pour le ciel. Cela ressemble beaucoup à ce que croyaient les rentés dans l'Angleterre du XVIIIe siècle, sauf qu'ils utilisaient des citations de l'Écriture pour justifier leur comportement pécheur. Ils étaient une secte très gênante pour les Quakers parce que les gens confondaient souvent les rentés avec les Quakers. Margaret Fox rédigea un texte très vigoureux réfutant leurs prétentions scripturaires, y compris l'affirmation des rentés citée ci-dessous, « Déclaration des rentés, pour ceux qui sont dans la liberté des fils de Dieu, tout est permis selon Paul ». Dans son texte publié, la réponse de Margaret à l'affirmation scripturaire des rentés fut « Vous qui êtes dans vos appréhensions charnelles de Dieu, vous êtes dans le monde sans Dieu. Vous êtes vivant sans la loi, et vous n'êtes pas encore venu à connaître la loi, et vous êtes mort dans les péchés et les offenses. Vous qui vivez dans le plaisir, vous êtes mort tout en vivant. Vous vivez pour le péché, et ainsi vous êtes libre de la justice. La loi qui est sainte, juste et bonne vous mettra en pièces. Vous n'êtes pas encore venu à connaître la loi, ni ce qui est permis, ce par quoi chacun passe avant de venir à connaître la liberté des fils de Dieu, cette loi qui abat toutes vos appréhensions charnelles de Dieu. Ô blasphémateurs, dites-vous qu'il n'y a pas de permis ni d'interdit, de piété ni d'impiété ? Voudriez-vous ravager les Écritures et annuler la loi juste de Dieu qui saisit le transgresseur ? Voudriez-vous fouler aux pieds le sang de la nouvelle alliance et le tenir pour une chose profane ? Oh, le jour de la vengeance vient sur vous. Le Seigneur Dieu est revêtu de vengeance contre vous et contre tous ceux qui sont comme vous. Vous qui êtes assis à la table des démons, vous êtes exclus de la liberté des fils de Dieu, et vous ne connaissez pas l'état par lequel Paul est passé. Quand vous le connaîtrez, ce sera pour vous mort et destruction. Vous en rendrez témoignage éternellement, avant même de venir à connaître le Dieu vivant. À l'époque de la mort de George Fox, presque tous les rentés avaient été convertis aux Quakers, ce qui n'est pas surprenant compte tenu de leurs racines. Comme William Penn le décrit dans son introduction au journal de George Fox, ces gens étaient appelés Sikhs par certains, et la famille de l'amour par d'autres. Lorsqu'ils eurent connaissance les uns des autres, ils se rencontrèrent parfois, mais non pas formellement pour prier ou prêcher à des temps et des lieux fixés, selon leur propre volonté, comme ils avaient coutume de le faire auparavant. Mais au contraire, ils attendaient ensemble en silence, et lorsque quelque chose s'élevait dans l'esprit de l'un d'eux qu'ils pensaient venir de Dieu, il arrivait qu'ils parlent. Après une abondance de révélations, quelques-uns de ces gens, ne demeurant pas dans l'humilité et la crainte de Dieu, s'élevèrent au-dessus de leur mesure. Et faute de maintenir leur esprit dans une dépendance humble envers celui qui avait ouvert leur intelligence pour voir de grandes choses dans sa loi, ils se laissèrent aller à leur propre imagination, ils se mirent à prêcher et à enseigner avant d'y être autorisés et avant d'être achevés par le Maître. Mêlant leurs imaginations à leurs ouvertures divines, ils enfantèrent une naissance monstrueuse, au scandale de ceux qui craignaient Dieu et qui attendaient chaque jour dans le temple, non fait de main, la consolation d'Israël, le Juif intérieur circoncis en esprit. Cela augmenta le péché par l'augmentation de la grâce, et changea la grâce de Dieu en absence de frein contre le mal, autorisant une manière de péché plus sûre qu'auparavant. Comme si Christ était venu, non pour nous sauver de nos péchés, mais pour nous sauver tout en péchant encore. Non pour ôter le péché, mais pour que nous puissions pécher plus librement à ses frais et avec moins de danger pour nous-mêmes. Ainsi Margaret Fox a dissipé l'erreur si courante dans le christianisme d'aujourd'hui, et elle décrit tout aussi complètement la solution. On nous a enseigné que nous n'avons plus à marcher selon la loi, que le faire, c'est des œuvres, que nous devons vivre de foi et de grâce. Et cela est vrai jusqu'à un certain point, nous ne pouvons pas obtenir le salut en ne faisant que tenter d'observer la loi, c'est vrai. Mais dans la foi nous devons marcher selon la loi déjà écrite dans nos cœurs, nous devons faire ce que nous savons être juste, et ne pas faire ce que nous savons être mal, du moins autant que nous en sommes capables. Jusqu'à ce que nous soyons conduits par l'Esprit, par les commandements personnels de Dieu à notre égard, la loi morale extérieure est notre pédagogue, nous rappelant de corriger notre conduite et nous poussant à chercher l'aide de Dieu pour ces choses que nous ne pouvons pas maîtriser. Nous devons rechercher et nous soumettre à la conviction de Christ et du Saint-Esprit, avec pour résultat des commandements de nous repentir, chaque commandement étant aussi écrit sur notre cœur, la loi intérieure que nous devons suivre pour progresser spirituellement. À moins d'obtenir la loi intérieure complète, écrite sur notre cœur et augmentée, un commandement après l'autre, nous sommes bien moins justes que les pharisiens, au sujet desquels Christ a dit « Si votre justice ne surpasse pas la justice des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez en aucune manière dans le royaume des cieux. » Matt 5:20. Oui, la loi doit être accomplie en nous. Christ doit nous changer pour devenir semblables à lui, afin que nous aussi accomplissions la loi, jusqu'au moment où notre foi sera complète, tenue dans une conscience pure. Nous devons traverser le temps de l'impureté en recherchant la pureté, avec la loi faisant retentir nos manquements et nos transgressions pour notre tristesse et de là, notre motivation à chercher une aide divine pour changer. La loi est notre pédagogue et notre condamnation jusqu'à ce que nous soyons conduits par la voie de l'Esprit de Dieu. Si nous ignorons la loi et ses exigences de bonne conduite, qui nous rappellent de trouver l'aide de Dieu pour être débarrassés du péché, nous restons désespérément enfermés dans le péché, et la condamnation du Seigneur ne manquera pas de suivre. Nous devons marcher selon la loi intérieure écrite dans nos cœurs jusqu'à parvenir à la pureté. Et tout homme qui a en lui cette espérance se purifie lui-même comme lui est pur. 1 Jean 3:3 Et au terme de notre purification, pour nous le ciel et la terre passent. Alors nous marchons dans l'amour, encore capables d'être tentés, mais protégés par la force de Christ de succomber à la tentation. Si vous écoutez quelqu'un qui vous dit que vous n'avez rien à faire pour plaire à Dieu, qu'il suffit de croire, vous écoutez un faux prophète, qui a l'apparence de la piété sous ses vêtements de brebis, mais qui est plein de cupidité et d'avidité au-dedans. Mais rester assis à pécher, demeurer esclave du péché et dire « Je crois en Jésus, c'est tout ce dont j'ai besoin » ou dire « J'ai la justice de Christ parce que je crois et que j'ai été baptisé » vous laisse avec bien moins de justice que les pharisiens et sans aucun héritage dans le royaume des cieux. Ces guides aveugles, se faisant passer pour des ministres de Christ, vous disent que vous avez la justice de Christ et donc que vous n'avez rien à faire. Ils vous disent de vous appuyer sur la justice imputée de Christ à notre égard parce que vous croyez en Jésus. Il y a une justice imputée qui vient après que nous avons crucifié notre nature pécheresse par l'obéissance sur la croix. Abraham a cru la voix de Dieu et lui a obéi. Nous devons faire de même. De même qu'Abraham a ensuite été circoncis, nous devons recevoir la circoncision spirituelle et notre cœur circoncis du péché. De même qu'Abraham exerça sa foi en quittant sa maison pour une nouvelle terre, nous renonçons au monde pour entrer dans le royaume de Dieu. De même qu'Abraham exerça sa foi en obéissant à la voix de Dieu, prêt à sacrifier Isaac, nous aussi devons être obéissants à la voix intérieure. Réveillez-vous pour la justice et ne péchez pas, car certains n'ont pas la connaissance de Dieu, je dis cela à votre honte. 1 Cor 15:34. Vous pouvez en être certain, aucun immoral sexuel, impur ou cupide n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous trompe par de vaines paroles, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur ceux qui désobéissent. Éphésiens 5:5-6. Il est nécessaire de crucifier la nature pécheresse pour avoir un quelconque héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Ceux qui appartiennent à Christ Jésus ont crucifié la nature pécheresse avec ses passions et ses désirs. Galates 5:24. Car vous ne pouvez pas plaire à Dieu en continuant à vivre selon la nature pécheresse. Romains 8:8. Mais crucifier la nature pécheresse conduit à l'union avec Christ dès ici-bas et à l'entrée dans son royaume glorieux, également dans cette vie. Oui, la loi s'applique encore à tous les croyants jusqu'à ce qu'ils soient conduits par le Saint-Esprit. La loi est notre pédagogue nous conduisant à la foi, qui vient lorsque vous entendez la parole de Dieu au-dedans de votre cœur, la croyez vraie, croyez que c'est Dieu qui vous parle, et alors obéissez à tout ce qu'il vous est commandé de faire, c'est-à-dire suivre Christ, entendre son Esprit vous parler et lui obéir. Les paroles que Christ vous dit sont esprit et donnent la vie de Dieu que ceux qui suivent obéissent à sa direction Christ reçoivent. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Galates 5:18. Ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Romains 8:14. De la parole du Seigneur au-dedans, il n'y a pas de loi lorsque vous êtes sous le contrôle complet de l'Esprit. Vous marchez dans l'amour, dans l'obéissance au gré des impulsions, vous ne marchez pas dans une chair restreinte. Voir ainsi Your words and deeds are prompted by God. You must obey the moral core of the law pour plus d'informations sur ce sujet. Le but de ce site web est de montrer comment être libéré du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, laquelle conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.